Vous écoutez
RMC.
Très bon réveil à tous. Il est 7h sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Un deuxième soldat français est mort des suites de ses blessures. Un autre casque bleu, lui aussi victime de l'embuscade du Hezbollah dans le sud du Liban. Traquer les fraudeurs aux allocations, oui, mais en respectant les droits des usagers. L'alerte ce matin sur RMC de la défenseur des droits. Et puis ne parlez pas d'âge à Paul Sexas, le prodige français du cyclisme impressionnant, grand vainqueur de la Flèche Wallonne.
L'armée française endeuillée une nouvelle fois par la guerre au Moyen-Orient.
Un deuxième soldat français est mort des suites de ses blessures, touché lui aussi par les tirs attribués au Hezbollah dans le sud du Liban. L'embuscade avait déjà coûté la vie à un militaire, le sergent Florian Montorio. Ils étaient déployés dans le cadre d'une mission de maintien de la paix. Le caporal-chef Anicet Girardin, 31 ans, faisait partie du 132e régiment d'infanterie cynotechnique de Suip dans le Val-de-Marne, village très choqué où s'est rendu Cassandre Brault pour RMC.
Dans cette petite commune, l'annonce de la mort du caporal-chef Anicet Girardin affecte tous les habitants.
C'est proche de nous, ça nous touche, parce que ça pourrait être nos enfants.
Céline est commerçante à Suip.
Forcément, oui, on en parle entre nous. Tel militaire, même si on ne les connaît pas personnellement, on sait qu'ils sont de chez nous.
Elle est d'autant plus émue que son frère et le militaire décédé font partie du même régiment.
C'est un sujet qui touche, puisque ils travaillent avec, donc... C'est pas facile.
C'est la particularité. Ici, à Suip, les militaires participent à la vie de la commune, raconte le maire François Collard.
On a tous dans nos proches des militaires et on s'imagine la peine de la famille, la peine de la perte d'un ami. Et donc, on est tous endeuillés.
Militaire expérimenté, père de 31 ans, c'est aussi un frère d'armes que pleurent les autres soldats de son régiment, comme l'explique le lieutenant-colonel Alexandre Carman.
Pour l'instant, il y a un sentiment de tristesse. On a perdu quelqu'un et lorsqu'on l'a vu partir en début de mandat, on ne pensait pas ne plus le revoir.
Un hommage est organisé les 7 et 8 mai prochains à Reims, sa ville natale.
Un reportage à Suip dans la Marne de Cassandre Brault et l'hommage pour Florian Montorio a lieu aujourd'hui en fin de matinée à Montauban dans le Tarn. Le pétrole repart à la hausse ce matin alors que les négociations patinent entre l'Iran et les États-Unis. Le cessez-le-feu prolongé par Donald Trump, mais jusqu'à quand? Il n'y a pas de date limite, explique la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Levitt.
Le président Trump a annoncé une prolongation du cessez-le-feu qui concerne les frappes militaires. En revanche, nous maintenons le blocus du détroit, nous étranglons complètement l'économie de l'Iran. Ils perdent 500 millions de dollars par jour, ils ne peuvent plus faire entrer de pétrole ni en sortir. Pour l'instant, le président se satisfait de cette situation et attend leur réponse. Donald Trump n'a pas fixé de date butoir concernant ce cessez-le-feu. Le calendrier sera fixé par le commandant en chef et le président des États-Unis.
Et nouveau pourparlers aujourd'hui à Washington entre les ambassadeurs israéliens et libanais. Le Liban veut demander de prolonger d'un mois le cessez-le-feu qu'ils s'accusent mutuellement de violer. Hier, une journaliste libanaise a été tuée dans une frappe israélienne. Face au contrôle contre la fraude sociale, la défenseur des droits appelle à respecter ceux des usagers. Elle a choisi RMC pour lancer cette alerte. Claire Hédon, invitée d'Apolline Matin à 7h40, elle dénonce dans un rapport le risque d'abus dans les contrôles aux aides sociales et aux allocations. L'utilisation d'algorithmes peut faire peser des risques et des difficultés sur certains usagers, parfois à partir d'une simple erreur, Amélie Courtet.
Quand on parle de la caisse d'allocation familiale à Muriel, 54 ans.
C'est un traumatisme, je ne les supporte plus.
Un traumatisme qui commence en mars 2020.
Petit courrier de la CAF, comme quoi une charmante dame allait venir faire un contrôle. On m'a demandé de rembourser 8000 euros de dette parce que j'avais été une vilaine fraudeuse.
Dans ce courrier, cette mère divorcée indique que l'organisme l'accuse d'avoir menti sur sa situation familiale. Pourtant...
Moi, j'ai prévenu dans les délais les changements de situation. Donc c'est là où j'ai pas compris ce qui s'était passé.
De multiples recommandations suivent, lui intimant de rembourser des trop perçus.
On ne peut pas se défendre parce que quand vous voyez tous les articles de loi que la CAF sort, vous êtes un peu écrasé. C'est une machine de guerre. Hein. Ça pousse à bout.
Depuis, elle ne touche plus aucune prestation sociale.
Même si j'ai droit à la prime d'activité, je n'en veux plus.
Conséquence d'un niveau de surveillance jamais atteint selon le sociologue Vincent Dubois.
Il y a un surcontrôle des populations les plus précaires. On pourrait se dire, normal, les bénéficiaires du RSA trichent plus que les autres. Mais non seulement ça n'est pas le cas, mais en plus ça crée des discrimination.
Des contrôles vécus comme opaques, violents et empreints d'une présomption de culpabilité d'après le rapport.
Une nouvelle affaire de séquestration sur fond de crypto-monnaie, une de plus qui s'ajoute aux 40 recensées depuis janvier par la police judiciaire. C'est en Bretagne que cela s'est passé lundi à Ploudalmézeau près de Brest. Deux hommes ont séquestré une famille entière, le père travaillant dans les crypto-monnaies. Les voisins n'en reviennent toujours pas. Le reportage de notre correspondant Martin Lange.
C'est dans un pavillon à la façade bicolore que des voisins ont découvert lundi en fin de matinée une mère de famille, ses deux enfants et leurs grands-parents ligotés. Très vite, les forces de l'ordre interviennent. Noël habite au bout de la rue.
On a vu, c'est vrai, beaucoup de gendarmes. On s'est rapidement dit que c'était assez grave, en tout cas en soi, que c'était pas un cambriolage simple.
Pendant plusieurs heures, la famille a subi les sévices de deux hommes cagoulés et armés. Ils ont notamment menacé la mère de lui couper un doigt. Leur objectif, obtenir le mot de passe du portefeuille numérique de la famille et accéder à la crypto-monnaie qu'elle possède. Près de 700 000 euros, selon nos informations, même si le préjudice financier est encore en cours d'évaluation, des méthodes qui choquent ces riverains.
Surtout dans ce contexte-là, quand il y a des enfants, des grands-parents, enfin, c'est hallucinant, il n'y a pas de limite.
Mais comment ils ont été repérés, il faut savoir, ça pose plein de questions, mais ce n'est pas rassurant.
Selon le procureur, le père, absent au moment des faits, exerce des activités dans le domaine des crypto-monnaies. Le maire, David Carrega, a pu s'entretenir avec la famille.
Ils étaient très 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 choqués, c'est sûr qu'ils seront sûrement marqués longtemps, mais... Voilà, ils vont bien, les enfants vont bien.
Une enquête a été ouverte pour retrouver les deux hommes. Elle a été confiée à la section de recherche de la gendarmerie de Rennes.
Deux CRS sont en garde à vue à Nice pour violences aggravées et vol. Un homme a porté plainte et les accuse de l'avoir frappé et dépouillé samedi dernier. Les deux fonctionnaires n'étaient pas en service. La vidéo de l'agression a été transmise aux enquêteurs. Il est 7h06 sur RMC. C'est la nouvelle pépite du cyclisme français. Paul Sexas confirme son nouveau statut. Le Français a encore frappé hier en devenant Maria Azé le plus jeune vainqueur de la Flèche Wallonne. 5 ans que la Marseillaise n'avait plus retenti au sommet du mur de Huy.
C'est une très belle course que je regarde tous les ans à la télé, donc pouvoir la gagner pour ma première participation, c'est exceptionnel.
À 19 ans, Paul Sexas devient le plus jeune vainqueur en 90 éditions de la Flèche Wallonne.
Moi je retiens juste que j'ai gagné, après mon âge ça m'intéresse, pas vraiment.
Les supporters français présents à l'arrivée ne regrettent pas d'avoir fait le déplacement.
Nous on est venus en Belgique, on voit un Français gagner, ça fait plaisir, c'est le remplaçant de Bernard Hinault qu'on attend nous.
En plus pour une première participation, très bonne surprise et puis vive la France quoi.
Il fait des sacrés performance et on pense qu'un tour et ça pourrait bien lui convenir quand même.
Prochaine échéance pour le français Liège-Bastogne-Liège, dimanche où Paul Sexas retrouvera Tadej Pogacar pour un duel au sommet. Le manager du Slovène Mauro Gianetti reste attentif.
Il faut toujours méfier par tous les coureurs et surtout pour un coureur si jeune et si costaud et si fort et si motivé comme Paul à ce moment.
Avant dimanche, Paul Sexas va savourer 7e victoire cette saison alors qu'il ne compte que 50 jours de course en professionnel. En football, on a désormais l'affiche de la finale de la Coupe de France. Ce sera Lens-Nice. Match dans un mois, le 22 mai au Stade de France. Nice qui a éliminé Strasbourg 2-0 hier. Une sacrée éclaircie dans une saison compliquée en Ligue 1. Ils sont à 4 points seulement du barragiste. Le PSG, lui, prend 4 points d'avance sur Lens. Les Parisiens ont battu sans difficulté Nantes. Victoire 3-0. Et puis lui va réaliser dans quelques mois son rêve d'enfant. Cyril Ferraud est le nouvel animateur de Fort Boyard, celui qu'on connaît plus pour Slam, succède donc à Olivier Mine, qui lui a animé l'émission emblématique pendant 25 ans. Quand même.
C'était le journal de Clara Gabillet. Il est 7h08 sur RMC. Goût pastèque, kiwi ou encore tequila pomme. En quelques clics sur internet, il est désormais possible de commander des bonbonnes de protoxyde d'azote. Des bonbonnes de protoxyde d'azote qui sont pourtant dangereuses et en théorie, en tout cas, interdites en France. Bonjour Maître Benoît Javot. Vous êtes l'avocat de l'association Antoine Aleno, du nom du fils du chef étoilé Yannick Aleno, tué par un chauffard sous protoxyde d'azote. Il faut mettre ces vendeurs hors d'état de nuire. Voilà votre parti pris. Vous le défendrez dans un instant. Et puis j'attends vos témoignages au 3216. Dites-nous si vous observez autour de vous cette consommation de protoxyde d'azote, si vous-même vous en avez consommé et comment faire pour lutter. Il est 7h09.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h12 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Cette action de groupe annoncée hier en justice contre deux entreprises accusées de vendre des bonbonnes de protoxyde d'azote. Bonjour Benoît Javot, vous êtes avocat, vous représentez l'association Antoine Aleno du nom du fils du chef étoilé Yannick Aleno. Votre parti pris ce matin, c'est qu'il faut mettre hors d'état de nuire ces entreprises. Ce que je trouve extrêmement frappant, et vous êtes venu dans ce studio, je le précise pour ceux qui nous écoutent à la radio, vous êtes venu dans ce studio avec des exemples de ces bonbonnes en vente, qu'on trouve en vente sur Internet, en trois clics, que l'on trouve en vente dans les épiceries de nuit. C'est des bonbonnes énormes qui ne peuvent pas même faire semblant d'être vendues pour faire de la cuisine. Et ces bonbonnes, elles sont en vente, c'est à vous de les poursuivre. Comment ça se fait que ce soit pas l'État qui fasse le boulot ?
Alors, notre action, elle est complémentaire de ce que l'État fait, et l'État, pour l'instant, son action, elle est insuffisante. La loi est insuffisante, il y a une loi de 2021. Le gouvernement entend prendre des nouvelles mesures. Elles-mêmes ne permettront pas une lutte efficace sur la totalité des sujets. Notre action, effectivement, elle vise à mettre sur la place publique ce sujet encore plus, et aussi d'avoir un effet utile. Vous voyez ces bonbonnes-là qui font 2 kilos, qui sont énormes. L'alibi commercial qui est mis en avant par le réseau Crime de Luxe, qui est la marque principale.
Crime de Luxe, il faut quand même préciser que la marque principale, ça s'appelle Crime de Luxe.
Exactement.
Je veux dire, pardon, mais le nom même de la marque interroge.
Ah mais tout est fait du nom de la marque au marketing, au packaging, pour viser les jeunes consommateurs avec un univers festif. Vous avez des produits qui s'appellent Lady Killer, Love 66. On vous dit, on vous décrit sur le site que ça, ce tank qui fait 2 kilos, ça, c'est une anse qui permettrait, comme un bazooka.
Voilà.
Comme un bazooka. Donc vous avez tout un langage, un discours commercial et des visuels qui visent à cibler les jeunes. Et pourtant, l'alibi, c'est de vous expliquer que ça, ça servirait en cuisine et ça servirait pour faire des cocktails. Or, le chef Aleno et tous les chefs et barman à qui on a posé la question nous disent que ça n'a jamais été utilisé, ça ne le sera jamais, c'est inadapté techniquement. Ce qui est utilisé, c'est des cartouches de 8 grammes.
Beaucoup plus petites. Et là, je précise aussi pour ceux qui nous écoutent, vous avez apporté ici, donc, d'un côté, ce que vous appelez ce tank, et en effet, je veux dire, c'est une énorme bonbonne, ça ressemble plutôt à un bidon, qui est donc ce qu'ils vendent comme soi-disant pour la cuisine. Et puis à côté, les toutes petites bonbonnes, celles qu'on voyait dans les tiroirs des cuisines de nos grands-mères, qui sont en réalité des cartouches de protoxyde d'azote. Exactement. Qui, elles, sont effectivement utilisées en cuisine.
C'est ça, il n'y a pas de doute. Et en fait, la croissance exponentielle de l'usage détourné avec toutes les dommages sur les jeunes et les accidents de la route, je répète que l'année dernière, 450 accidents routiers impliquant le protoxyde d'azote. Il y a cette croissance exponentielle de la consommation, elle est due à l'apparition sur le marché de ces formats-là, bonbonnes et tanks, directement qui ont remplacé les cartouches, et leur format même n'a d'autre objet que un usage détourné.
Et on a fait le test ce matin avec la rédaction d'RMC. En 2 clics sur Internet, on peut commander ces bonbonnes effectivement présentées soi-disant pour des professionnels. C'est donc un détournement manifeste de leur usage.
Ah bah, c'est notre thèse. Je pense que vous avez fait la démarche. Nous, on l'établit dans le cadre de l'action. Et il est important que les pouvoirs publics s'en saisissent pleinement. Et l'association demande à rencontrer le ministre de la Justice pour lui expliquer notre action et l'importance qu'il s'associe à notre action. Et également des mesures qui devraient être prises en complément de ce qui est envisagé parce que c'est insuffisant.
Alors évidemment, il y a une forme de cynisme aussi, on le voit bien dans cette vente, ce marketing, comme vous le disiez. Aujourd'hui, on le trouve en vente sur Internet, on le trouve en vente aussi dans les épiceries de nuit, on le trouve en vente dans les bars à chicha, on le trouve en vente partout.
Et le réseau Crème de Luxe, comme d'autres réseaux qui vendent ces formats de protoxyde d'azote, sont très adaptables. Et en fait, plus ça va, plus ils vont vers des réseaux occultes qui sont proches soit de la contrebande, soit même du trafic de stupéfiants. Vous trouvez maintenant facilement dans des épiceries de nuit, des bars à chicha, derrière le comptoir, vous pouvez demander ça, et un tank comme celui-là se vend 50 euros. Vous avez aussi des drives dans certains endroits ou la possibilité d'utiliser Snapchat. C'est donc entre la contrebande et les réseaux de trafic de stupéfiants pour la distribution aux jeunes consommateurs.
50 euros pour une bonbonne comme celle-ci. Les ravages épouvantables, vous avez parlé de ces 450 accidents graves de la route l'an dernier. Les ravages aussi sur la jeunesse, avec parfois des jeunes qui se retrouvent handicapés, véritablement, parfois à vie, pour l'usage de cette drogue. À quel niveau de proportion désormais vous notez ces évolutions ? C'est-à-dire, est-ce que c'est devenu désormais quelque chose de courant vraiment chez les jeunes ?
Ouais, deux choses. Une statistique, 6% des jeunes qui étaient interviewés disaient qu'ils avaient déjà pris le volant en ayant pris du protoxyde d'azote, des jeunes en dessous de 25 ans. Et je pense que tout à chacun, les téléspectateurs, c'est la même chose. On peut voir dans la rue, les matins et surtout les week-ends, des bonbonnes ou des tanks qui restent par terre. Donc on n'a pas de chiffre officiel, justement, parce que ce sont des réseaux pour partie occulte, mais on peut voir les stigmates de cette utilisation détournée des ravages chez les jeunes de façon assez simple et au quotidien.
Est-ce que l'État prend la mesure ? Vous le dites, c'est pas suffisant.
Alors, en tout cas, dans le discours, ils prennent la mesure. Le projet de loi Riposte, qui a été annoncé par le ministre de l'Intérieur, envisage des sanctions qui sont dissuasives sur la consommation, l'importation, ainsi de suite. Mais il y a des réalités qui ne sont pas envisagées. Typiquement, ces formats-là, il est encore prévu qu'on puisse les vendre à des professionnels. Or, les professionnels n'ont pas d'utilité, c'est inadapté.
Des formats comme ceux-là devraient être interdits. Nous n'en avons pas besoin.
Oui, on a des attestations.
Donc tout ça est hypocrisie.
Hypocrisie, exactement.
Merci beaucoup. Merci, Maître Benoît Javot, avocat associé au cabinet Squadra, et vous représentez donc l'association Antoine Aleno. Vous menez donc cette action de groupe qui a donc été annoncée hier, lancée en justice contre les deux entreprises principales accusées de vendre ces bonbonnes de protoxyde d'azote. Vous n'hésitez pas d'ailleurs à réagir au 32-16. Il est 7h19 et dans un instant, on va remonter le temps. Arthur Chevalier est rentré dans ce studio. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, alcoolique, ne se présentant pas à certaines réunions, le patron du FBI est mis en cause par la presse américaine.
Et si je vous disais, Apolline, ce matin, que c'est Napoléon Bonaparte qui est à l'origine du FBI?
Vous allez nous raconter l'histoire du FBI et ça trouve racine en France. À 8h30, notez-le dans le face-à-face, mon invité ce sera le ministre des PME et du pouvoir d'achat, du commerce, Serge Papin. Et dans 5 minutes, Arnaud Demange va venir pirater l'interview. Restez bien avec nous, il est 7h19.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h20 et vous êtes bien sur RMC, RMC Story. On va remonter le temps comme chaque jour avec Arthur Chevalier. Arthur, l'un des hommes les plus puissants des États-Unis, se retrouve dans la tourmente. C'est le patron du FBI. Il est accusé d'être alcoolique, colérique et même de menacer la sécurité publique américaine.
Eh oui, ces accusations viennent du magazine The Atlantic, hein, Cash Patel. C'est un proche de Donald Trump qui l'avait d'ailleurs nommé à la tête du FBI en février 2025. Alors d'après cette enquête, son comportement serait effectivement incompatible avec ses fonctions. En plus d'être alcoolique, il se montrerait paranoïaque. Il lui arriverait aussi d'être injoignable, de ne pas se réveiller pour des réunions. Bref, de son côté, Patel a porté plainte contre le magazine. Il a déclaré « Je n'ai jamais été ivre au boulot ». Fin de citation. Ah. 250 millions de dollars de dommages et intérêts, c'est ce qu'il réclame.
Alors, c'est grave parce que le FBI, c'est l'agence la plus puissante des États-Unis.
Absolument. Et figurez-vous que le FBI a des origines françaises. Apolline, son fondateur, c'est un descendant de Napoléon.
Vous voulez
Bonaparte.
Pas voir des Napoléons partout.
Mais vous allez voir que pourtant j'ai raison. C'est l'arrière-petit-neveu de Napoléon qui l'a créé. Il s'appelait Charles-Joseph Bonaparte. Il était américain. Il va faire une très belle carrière jusqu'à devenir ministre de la Justice. C'est à ce poste qu'en 1908, il crée le BOI, le Bureau of Investigation, ancêtre direct du FBI.
Alors au départ, sa mission, c'était quoi?
Alors c'était d'être une police au service du gouvernement, puisque le problème avant, c'est que les polices des différents États n'avaient pas le droit d'intervenir dans un autre État que celui auxquelles elles étaient rattachées. Au contraire, les agents de ce nouveau bureau pouvaient désormais intervenir sur tout le territoire, donc circuler dans tous les États-Unis, ce qui a rendu tout le monde plus efficace.
Cette institution, elle doit beaucoup à un homme.
Oui, cet homme, c'est John Edgar Hoover. Il prend la direction du BOI en 1924 et il va en devenir le seigneur et maître jusqu'en 1972. C'est lui qui change le nom du bureau en 1935. Ça devient donc le FBI, le Federal Bureau of Investigation. Il va en faire une machine d'influence et d'espionnage. Tout ce que l'Amérique compte de puissant est désormais surveillé, écouté, fiché par le FBI. Tout le monde avait peur de Hoover, y compris les présidents américains qui savaient qu'ils connaissaient leur vie privée. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est resté aussi longtemps en place.
Et je recommande une lecture passionnante, La Malédiction d'Edgar. Ça va d'ailleurs prendre des proportions inquiétantes.
Oui, avec un programme de contre-espionnage lancé en 1954. Ça s'appelait COINTELPRO. Le but, c'était de protéger le gouvernement de tout ce qui pouvait le déstabiliser. Les ennemis désignés, c'était les communistes et les militants pour l'égalité raciale, à commencer par Martin Luther King lui-même. Il était suivi. Quand il allait dans un hôtel, on mettait des micros dans sa chambre. Il y en avait d'ailleurs aussi chez lui. Le FBI ira jusqu'à lui envoyer des lettres de menace pour qu'il se retire de la politique. Bref, ce bureau est surpuissant, très utile pour le gouvernement, mais attention, puisque il peut aussi se retourner contre lui. Voilà pourquoi le choix de son directeur a toujours été très sensible.
Merci beaucoup Arthur Chevalier, qui réussit quand même à citer Napoléon dans une chronique sur le FBI. C'est très très fort. Alors, on accueille Arnaud Demange.
RMC.
Demange Pirate, le face-à-face.
Et bonjour.
Salut Arnaud. Mon invité tout à l'heure dans le face-à-face, ce sera le ministre des PME et du pouvoir d'achat, Serge Papin.
Oui, on le connaît pas très bien, mais alors, vous allez vous amuser, Apolline. Franchement, il est rigolo. Il a une voix marrante. Il a la voix de Columbo. Ça va être super. Je sais que vous aimez bien. Serge Papin, bonjour. Ah, Mme de Malherbe. Merci de me recevoir. Vous savez, ma femme vous adore, elle vous regarde tous les matins alors qu'elle met ses bigoudis. Oui, alors Serge Papin, les prix augmentent. Oh oui,
et j'ai de bonnes raisons de croire que le pouvoir d'achat des Français a été assassiné, madame. C'est Donald Trump le responsable? Bon, ça, il est encore un peu tôt pour le dire, madame de Malherbe. Mais selon moi, on est obligé de constater que c'est la guerre en Iran.
C'est sûr.
Quelle histoire, ça aussi.
Aïe, aïe, aïe.
On est peu de choses, madame de Malherbe. Vous savez, ma femme, madame Papin, me disait, c'est plus comme avant. Nous, quand on était gamins, avec mon petit cousin Gino, on n'avait pas grand-chose. Mais on était heureux. Un simple chat crevé. On jouait au football pendant des heures.
Oui, certes, Papin, on n'a pas le temps pour vos souvenirs. Il est déjà 11h30.
Alors la guerre, pardon. Donc je parle. Et il y a la guerre. Quelle histoire. Vous savez qu'il y a des chèques carburants, madame. On a fait des chèques carburants.
Voilà. Oui, merci, cher Papin. Et c'est l'heure d'Estelle Midi. Je peux faire ça pendant des heures. Alors, j'ai appris que Serge Papin, c'était le plus riche de tous nos ministres. Oui. Vous avez vu, ils ont dévoilé leur patrimoine. Alors, on apprend que Sébastien Lecornu est dans le rouge avec moins 590 000 euros sur son compte. C'est vachement rassurant, hein. Confier les finances publiques à quelqu'un qui sait même pas gérer son budget quand son banquier l'appelle et lui dit « Monsieur le Premier ministre, vous êtes à découvert de 500 euros. » « Oh, c'est rien, hein. Sur mon compte pro, je suis à moins 3400 milliards.
Ah ben ça va alors. »
Donc on apprend que Serge Papin a un patrimoine de 8,5 millions et que son collègue Michel Fournier a une cabane dans les Vosges et une camionnette blanche d'occasion.
Non.
Ça, on savait. Avec un enfant à charge dedans.
Non.
Ah non, il l'a plus. Ah si, il y a un nouveau. Ah non, ça doit être galère pour sa déclaration de revenus. Allez, rendez-vous avec Serge Papin entre 8h et 14h30. 8h30, pardon, 8h30. À tout à l'heure.
Arnaud Demanche qui est avec nous tous les jours. Et puis ne manquez pas, tiens aussi, après le face-à-face, Nicolas Canteloup, c'est à 8h50 sur RMC. Dans un instant, la météo et le journal de 7h30. Et puis juste après, la lutte contre la fraude doit respecter les droits des usagers. En gros, l'idée, c'est que lutter contre la fraude, c'est bien, mais lutter trop... Non, ça, c'est pas possible, parce que les honnêtes gens ne peuvent pas se retrouver à devoir prouver leur honnêteté. C'est la défenseuse des droits qui tire le signal d'alarme. Elle est dans ce studio à 7h40. N'hésitez pas, vous aussi, à nous appeler au 3216 si vous avez eu maille à partir avec l'administration. À 7h50, ce sera la voix de gauche, Cécile Duflo. Son plaidoyer, non, l'orthographe n'est pas une religion. Elle nous le dira, vous l'entendrez. Il est 7h27. À tout de suite. Il est 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Clément Gouitz. Bonjour Clément.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La France face à un défi massif avec 500 000 entreprises à reprendre dans les 10 prochaines années. Le ministre des PME et du Commerce, Serge Papin, va dévoiler ce matin sur RMC ses mesures pour aider les transmissions d'entreprises. Un hommage national aujourd'hui aux militaires de Montauban, tués au Liban le week-end dernier dans une embuscade menée par le Hezbollah. Embuscade qui a coûté la vie hier à un deuxième soldat français. Et ce matin, on en sait un peu plus sur les circonstances de leur mort. Nice-Lens, c'est l'affiche de la finale de la Coupe de France.
Comment éviter la disparition de milliers d'entreprises faute de repreneurs?
500 000 entreprises vont devoir trouver un nouveau propriétaire dans les 10 prochaines années. Il y a donc urgence, 3 millions d'emplois sont en jeu. Le gouvernement promet des mesures pour aider les transmissions d'entreprises. Le ministre des PME et du Commerce, Serge Papin, va les dévoiler ce matin sur RMC à partir de 8h30. Et Rachel Sadodine, les difficultés sont nombreuses. Vous l'avez constaté dans cette ferronnerie de l'Eure-et-Loire.
Une petite dizaine d'employés restaurent ici des ouvrages en fer destinés au Louvre, à l'Arc de Triomphe ou encore à Notre-Dame sous la houlette de deux patrons, le repreneur Maroun et le cédant Jean-Christophe.
Je vais présenter l'atelier avec différents postes de travail. On va faire les opérations de perçage, de taraudage, vissage, montage, etc.
Et tout ce vocabulaire-là, Maroun
J'étais pas familiarisé, donc il y a encore des choses à apprendre, bien évidemment.
Pour assurer donc une transmission tout en douceur, les deux hommes décident de s'associer. Maroun rachète 60% de l'entreprise, non sans difficulté.
Entre le moment où j'étais voir les banques, j'ai déposé un dossier, il s'est passé 6 mois. Le cédant aurait pu se lasser. Les collaborateurs qui savaient qu'il y avait une session qui était en cours auraient pu se poser des questions. Ça peut jouer sur le moral, la motivation, c'est pas forcément évident.
C'était sans compter sur la patience de Jean-Christophe. L'ancien patron a mis 4 ans à trouver le repreneur parfait sans jamais baisser les bras.
J'ai vu beaucoup de monde passer. Certains voulaient l'entreprise, mais pour pas cher. Ils avaient pas trop l'intention d'y travailler. Ils avaient l'intention de trouver quelqu'un qui puisse la faire tourner. Et pour moi, c'était pas viable. Une entreprise, c'est un bébé.
Pour accompagner les chefs d'entreprise dans leur départ à la retraite, le ministre des PME, Serge Papin, promet envoyer dans les prochaines semaines un courrier d'information à tous les patrons de plus de 55 ans.
RMC 7h32, l'armée française une nouvelle fois endeuillée. Cinq jours après une embuscade dans le sud de Liban, un deuxième militaire français a succombé à ses blessures hier. Il s'agit du caporal-chef Anissé Gérardin, 31 ans. Il faisait partie du 132e régiment d'infanterie de Suip dans la Marne. Et Antoine Audion, on en sait un peu plus ce matin sur les circonstances de leur mort.
Oui, le caporal-chef Anissé Gérardin portait secours à son supérieur lorsqu'il a été grièvement touché. C'était il y a 5 jours lors d'une mission de reconnaissance pour ravitailler des casques bleus de l'ONU. Il s'est retrouvé isolé, sa patrouille a été violemment prise à partie par des tirs de combattants du Hezbollah embusqués à très courte distance, décrit la ministre des Armées Catherine Vautrin. Dans cette même embuscade, l'adjudant Florian Montorio avait été mortellement touché et 2 autres soldats français ont été blessés. Âgé de 31 ans, paxé et père d'un enfant, le maître chien spécialisé dans la recherche d'explosifs a d'abord été hospitalisé à Beyrouth, puis rapatrié en France, mardi, dans un hôpital militaire où il est décédé hier.
Antonin Audion, un hommage sera organisé les 7 et 8 mai prochains à Reims, sa ville natale. Et c'est aujourd'hui à Montauban qu'aura lieu une cérémonie d'hommage national au sergent-chef Florian Montorio, tué dans cette embuscade. Israël et le Liban se retrouvent à Washington. Beyrouth va demander une prolongation d'un mois de la trêve en vigueur depuis vendredi dernier. Pas question de rouvrir le détroit d'Ormuz tant que les États-Unis imposent leur blocus au port iranien, annonce Téhéran. De son côté, Donald Trump n'a pas fixé de date butoir à l'Iran pour faire une proposition. Conséquence, les prix du pétrole flambent, plus 4% cette nuit, $105 le baril. RMC 7h33, la vidéo a fait le tour des réseaux. Une violente altercation entre un professeur et 2 élèves dans un lycée montpelliérain. On vous en avait parlé en début du mois. On y voit l'enseignant bousculé avant de gifler un élève et une situation qui dégénère dans les couloirs. Le rectorat a ouvert une enquête flash et dès hier soir, RMC a pu se procurer les conclusions de cette enquête, Sarah Bélienne.
Cette enquête confirme qu'il y a eu contestation de l'autorité de l'enseignant et des faits de violence de la part des 2 adolescents. Alors que le professeur réprimande des élèves, un autre le prend à partie, l'enseignant se retrouve plaqué au mur. S'ensuivent alors les scènes de violence visibles dans la vidéo. Le document mentionne aussi le geste inapproprié du professeur, cette gifle intervenue, je cite, dans un contexte de dégradation rapide de la situation. Dans un courrier que nous avons pu consulter, le directeur académique de l'Hérault affirme que les élèves seront convoqués en conseil de discipline. L'enseignant jusqu'ici suspendu fera lui l'objet d'un rappel à ses obligations professionnelles et devra suivre une formation à la gestion des conflits. Lui et les 2 élèves ont affirmé regretter leur geste. Désormais, le rapport est entre les mains de l'autorité judiciaire.
Un accord migratoire entre Paris et Londres. Objectif tenté de freiner les traversées clandestines de la Manche avec une nouveauté de taille. Une partie du financement britannique dépendra désormais des résultats sur le terrain, jusqu'à 766 millions d'euros sur 3 ans. RMC 7h35. On connaît l'affiche de la finale de la Coupe de France. Un doublé de Wai hier face à Strasbourg. On voit l'OGC Nice en finale face à Lens. Les Aiglons en grande difficulté en Ligue 1 s'offrent un match de gala presque inespéré, Clément Brossard.
Oui, Nice s'est offert un bol d'air dans une saison galère. Le capitaine Morgan Sanson en est conscient.
Sentiment de joie, forcément. Je pense qu'aujourd'hui, peu de gens nous voyaient sortir vainqueurs. Donc non, une fierté. Bravo à l'équipe.
Déjà vainqueur de la Coupe de France avec Toulouse en 2023, le gardien niçois Maxime Dupé a toujours voulu y croire.
C'est sur mon protège tibia, ma femme qui m'a offert ça. J'ai la coupe dessus. C'était pour moi en tout cas un objectif. C'est une saison, je peux même dire, de merde. Mais voilà, il y a ce petit truc qui peut la rendre presque exceptionnelle.
À condition de se maintenir en Ligue 1, car Nice, 15e du championnat, ne compte que 4 points d'avance sur le barragiste Auxerre. L'entraîneur Claude Puel n'oublie pas les priorités.
La meilleure façon d'aborder une finale, c'est quand même de faire le nécessaire à un championnat et d'être sauvé le plus vite possible. La seule perspective, la seule projection qu'on a maintenant, c'est Marseille et rien d'autre.
Mais s'il peine à se projeter, il assure une chose.
D'abord, une finale, ça se joue pas, ça se gagne.
Pour offrir à Nice un titre de Coupe de France qu'il n'a plus remporté depuis 29 ans.
La finale Nice-Lens est prévue le 22 mai prochain au Stade de France. Et en Ligue 1, le PSG reprend 4 points d'avance après sa victoire hier 3-0 en match retard de la 26e journée face à Nantes.
Et puis le Quintet, ça se déroule sur l'hippodrome de Paris-Longchamp et c'est à 13h55.
Et le pronostic de la Dream Team des courses RMC, leur favorite est le 3 Chess et leur outsider le 5 Ferdinand Premier.
C'était le journal de Clément Gouitz. Il est 7h37 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
On m'a demandé de rembourser 8000 euros de dette parce que j'avais été une vilaine fraudeuse. Moi, j'ai prévenu dans mes délais les changements de situation. Donc, c'est là où j'ai pas compris ce qui s'était passé. On peut pas se défendre parce que quand vous voyez tous les articles de loi que la CAF sort, vous êtes un peu écrasé. C'est une machine de guerre. Hein. Ça pousse à bout.
Ça pousse à bout, voilà le témoignage que vous venez d'entendre de Muriel. Muriel, la CAF lui a reproché d'avoir menti sur sa situation, une erreur qui s'est transformée en cauchemar. Bonjour Claire Hédon.
Bonjour Apolline.
Vous êtes la défenseur des droits. Des cas comme celui que nous avons recueilli, vous en avez collecté énormément. Au fond, la lutte contre la fraude, c'est bien, mais il ne faudrait pas que ça se retourne contre les gens honnêtes. Vous avez choisi RMC pour dévoiler votre rapport et vous dénoncer dans un instant cette lutte qui finalement se fait parfois au détriment des allocataires. Je vous attends au 32-16. Dites-nous si vous avez déjà rencontré ce type de situation. Venez donc témoigner et réagir. Il est 7h38.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h41, bon réveil à tous sur RMC. Quand la lutte contre la fraude se retourne finalement et rend la vie des allocataires honnêtes impossible. C'est ce que vous dénoncez ce matin. Bonjour Claire Hédon.
Bonjour Apolline.
Vous êtes la défenseure des droits, merci d'avoir choisi RMC pour dévoiler votre rapport ce matin. Au fond, bien sûr, la lutte contre la fraude c'est nécessaire et d'ailleurs ça rapporte beaucoup et on a réalisé qu'il y avait de très gros montants à réaliser dans la fraude contre les allocations ou les prestations sociales. Sauf que c'est désormais en train de se transformer en une véritable chasse aux sorcières. C'est ce que vous dénoncez.
Exactement. Et vous avez raison de rappeler que la lutte contre la fraude est indispensable. C'est d'ailleurs un objectif à valeur constitutionnelle. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais nous, ce qu'on observe, et on est là pour défendre les droits des usagers, c'est que cette lutte contre la fraude, elle se retourne contre les personnes. D'abord, il y a une confusion entre les erreurs et la fraude. Et la fraude, c'est l'organisme social qui doit démontrer qu'il y a eu une intention frauduleuse. Et nous, on observe très souvent dans nos réclamants des erreurs. Et les erreurs, elles sont dues à quoi ? À la complexité du système. Les erreurs, il faut le savoir, ne proviennent pas que des usagers, mais aussi des organismes. C'est comme ça que sont générés ce qu'on appelle des indus, c'est-à-dire en gros des sommes qui sont trop perçues, et les personnes reçoivent un courrier disant qu'elles doivent rembourser ces sommes. Et très souvent, ces courriers ne sont pas très clairs. Est-ce que justement c'est un indu, une erreur, ou est-ce qu'il y a une accusation de fraude ? Et c'est important pour l'usager de savoir ce sur quoi on l'accuse, parce que la question du recours sur une décision et quelles vont être les possibilités pour aller contester et dire, en fait non, je me suis juste trompé à cause de la complexité des démarches.
La distinction entre l'erreur et la fraude volontaire, la question de la complexité des démarches et de l'accès même aux services publics, on va y revenir. Mais il y a quand même quelque chose que je comprends pas. On nous avait parlé du fameux oups. Vous vous souvenez le oups? C'est-à-dire le j'ai le droit d'avoir, de m'être trompé, je suis en de bonne foi, et l'administration me doit en quelque sorte cette possibilité, cette option de dire je me suis trompée. En fait, ça c'était largement théorique.
Votre oups, il est dans la loi, c'est la loi ESSOC qui consacre le droit à l'erreur. Et nous, qu'est-ce qu'on observe dans une institution comme la nôtre? C'est l'écart entre le droit annoncé et son effectivité. Mais on parle de choses très concrètes. Enfin, moi je pense à une femme retraitée sur laquelle qui vit à l'étranger, sa pension de retraite est suspendue pendant 8 mois. Il a fallu 8 mois pour qu'on lui rétablisse à cause de la question de la sûreté de son existence. Et elle a donné des
preuves. Elle a dû prouver qu'elle était en vie.
Ce qui est normal. Qu'elle a dû prouver qu'elle était encore en vie, ce qui est parfaitement normal, mais elle n'a pas compris. Elle a envoyé plusieurs certificats de vie qui n'ont pas été considérés comme valables, mais à aucun moment on lui a expliqué quel était le problème, pourquoi ce n'était pas considéré comme valable. Moi, ce qui me frappe, c'est des courriers qui sont excessivement compliqués à comprendre et les personnes ne comprennent pas exactement ce qu'on leur demande. Et j'insiste sur le fait que les erreurs ne viennent pas que des usagers. Les erreurs viennent aussi des organismes sociaux et vous l'avez dit, on a certains réclamants qui doivent 10 000 15 000, 25 000 euros. C'est quand même énorme après à rembourser.
Claire Hédon, l'usage des réseaux sociaux aussi par les contrôleurs, ça vous inquiète parce que vous constatez aussi que c'est une forme d'intrusion, qu'il y a ensuite une difficulté à y mettre vraiment des garde-fous. Jusqu'où peut aller l'intrusion dans la lutte ou au nom de la lutte contre la fraude?
Alors, toujours au nom de la lutte contre la fraude, on peut faire un certain nombre de choses, mais les risques, c'est les atteintes à la vie privée, la façon dont sont utilisés les réseaux sociaux, qu'est-ce qui est public, pas public. Et puis, d'autre part, c'est quand même très important que les personnes comprennent quel a été le motif du contrôle de départ. Justement, est-ce que c'est un algorithme? Est-ce que c'est l'intelligence artificielle qui a été utilisée? À quel moment est intervenu de fait un contrôleur et pour pouvoir après le contester? La question après, qui est très importante, c'est le plan de remboursement. Quand il y a eu un dû ou erreur, comment se fait
Eh ben, vous savez quoi, justement, on a le témoignage d'Alexandra qui nous appelle depuis l'Essonne. Bonjour Alexandra.
Bonjour à Pauline et bonjour à votre invité.
Alexandra, soyez la bienvenue. Racontez-nous ce qui vous est arrivé à vous. Il y a eu justement un trop perçu et ça vous a mis dans la très grande difficulté.
Alors c'est intéressant ce que vous venez de dire à l'instant, parce qu'en fait déjà il faut comprendre ce qui s'est passé. Je vous avoue qu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé, c'est un embrouillé au mon dossier. Oui. J'étais en train de me séparer. Oui. Je suis accompagnée à ce moment-là par un travailleur social de la CAF qui me dit que même quand on est encore sous le même toit du conjoint, on peut indiquer qu'on s'est séparé.
D'accord.
Donc moi je suis accompagnée par un travailleur social. Du coup, en plus, c'est un peu fort de café, vous allez comprendre, je suis moi-même accompagnatrice socio-professionnelle.
D'accord.
Donc, j'ai l'habitude d'être régulièrement en lien avec les services de la CAF. Et puis, des fois, vous tombez sur des personnes qui sont très condescendantes aussi, hein. Ça, c'est quelque chose, qu'il est important de souligner aussi. Et puis, mon dossier n'est pas mis à jour. Ça, je le comprendrai après. Je n'ai jamais perçu de prime d'activité. Je ne percevais pas d'APL quand j'étais encore avec mon conjoint dans le logement. Et je m'installe au mois d'octobre dans un nouveau logement ici où je suis actuellement avec mes trois enfants. Et je fais une demande d'APL.
Ouais.
Et quand je fais la demande d'APL, je suis recontactée par une technicienne. Comme j'avais pas les revenus suffisants, donc comme on nous le demande trois fois le montant du loyer en revenu, mon fils apparaissait sur le bail. Mon fils aîné qui travaille en alternance, et j'ai un coup de fil un matin et on me dit, comme votre fils apparaît sur le bail, vous allez percevoir, on va tenir compte de la moitié du montant du loyer pour le calcul de vos APL. Très bien. Et puis on me dit, mais votre fils, il perçoit plus de 55% du SMIC. Je lui dis, vous en avez connaissance de ces revenus puisque vous récupérez les revenus de l'administration fiscale, des employeurs. Ouais. Moi, je n'ai rien déclaré. C'est des déclarations automatiques quand vous faites votre demande d'APL. Et en revanche, je les avais déjà alertés sur le fait. Et je pense que c'est là aussi les bugs qu'il peut y avoir, c'est que je ne recevais pas mes déclarations trimestrielles d'activité.
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin, ils vous ont dit quoi? Que vous aviez trop
perçu?
Alors,
à la fin, la personne me dit, on va vous envoyer une demande de pièces complètes. J'ai l'impression, en plus, d'avoir fait moi rentrer le loup dans la bergerie.
Comme en faisant votre demande, oui.
Quand cette personne me contacte, elle me dit, on va vous envoyer une demande de pièces complémentaires que je ne recevais pas. Et là, je suis très angoissée parce que je me dis, il va se passer un truc, on va me notifier un trop perçu, il va se passer quelque chose. Et c'est moi qui relance une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à demander un rendez-vous. Et effectivement, un jour, j'ai un rendez-vous, on me dit, comme votre fils gagne plus de 55% du SMIC, vous n'aviez pas le droit au complément familial. À l'époque, je gagnais à peu près 120 euros d'allocation plus le complément familial, donc 541 euros par mois. Et je me suis retrouvée avec 100 euros par mois. Donc, la notification de trop perçu. Là, ils ont été très rapides. J'ai envoyé les CERFA d'alternance.
Vous avez dû rembourser combien?
Là, ils m'ont réclamé 7400 euros mi-décembre.
7400 euros mi-décembre, voilà, là, vous êtes dedans, là.
Noël la part de la CAF de l'Essonne. Et ensuite, ils se sont rendus compte qu'effectivement, et c'est vraiment pour ça que je voulais apporter mon témoignage, parce qu'effectivement, c'est une machine de guerre, comme le disait la personne. Moi, j'ai complètement perdu pied. On passe déjà, je suis seule, avec un loyer de plus de 1000 euros, puisque je suis dans le privé, et je passe de 541 euros par mois, en me disant, en plus, je vais avoir un petit peu d'APL, à me retrouver avec 100 euros par mois. Là, une fois qu'ils ont commencé, moi, je leur ai dit, je ne recevais pas, j'ai pas cherché à cacher les revenus de mon fils, vous les connaissez.
C'est ça, c'est-à-dire, c'est ça ce qui est fou, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de fraude. Vous savez quoi? Restez avec nous, je voudrais que Claire Hédon puisse réagir à votre témoignage. On entend d'ailleurs dans les mots d'Alexandra, il y a eu le mot angoisse et puis je perds pied.
Alexandra dit plein de choses intéressantes. Tous vos témoignages depuis ce matin disent la même chose, hein, sur la complexité. Vous voyez bien que c'est pas des personnes qui ont voulu frauder. C'est une question de la complexité du système. Moi, je trouve que ça serait intéressant qu'elle nous saisisse parce que ce que j'entends dans ce qu'elle dit, c'est que le bail, il a été fait avec son fils juste pour qu'elle puisse avoir une location. Ça veut pas dire qu'il vit avec elle. Donc c'est complètement différent. Ça vaut le coup qu'on fouille cette question et qu'on essaye de comprendre. Mais vous voyez, d'abord les personnes ne savent pas forcément qu'on existe et qu'on peut nous saisir. Mais vous voyez, on veut juste avec ce rapport alerter les différents organismes sociaux sur la complexité, faire un certain nombre de recommandations sur la clarté du langage et qu'est-ce qu'on demande aux personnes. Sur la question quand
est-ce qu'ensuite on peut demander un échelonnement, c'est important. Alors, ça, aussi c'est de dire ça à Alexandra parce que
mais il faut quand même vérifier si elle les doit vraiment, ces sommes-là. Il y a deux choses à faire.
Si elle les doit, est-ce qu'elle peut obtenir un échelonnement?
Il y a une erreur. La deuxième chose, si jamais il y a une qualification de fraude, c'est à l'organisme social de prouver qu'il y a fraude.
fraude. Et c'est pas à la personne, à l'usager, de prouver qu'elle n'a pas fraudé. Ça, c'est le point absolument essentiel. Et après, un échelonnement des remboursements pour laisser un reste à vivre aux personnes. Et c'est la bataille qu'on a menée sur le projet de loi, vous savez, sur la fraude. On est très inquiet sur ce projet de loi. On a quand même réussi à gagner avec le ministre que soit maintenu pour les personnes un reste à vivre suffisant. C'est l'application de la Constitution qui s'engage à ce que les personnes aient un revenu minimum suffisant d'existence.
Avec une question aussi, c'est que au fond, c'est tellement décourageant et on entend le parcours du combattant étape par étape d'Alexandra. Ça a pour conséquence notamment du non-recours, c'est-à-dire des gens qui lâchent l'affaire, qui abandonnent, qui n'y vont plus, qui ne demandent même plus les aides auxquelles ils peuvent.
Mais vous voyez bien, à chaque fois, ce sont des personnes qui en fait ont commencé les démarches, mais ont plutôt abandonné devant la complexité, effectivement le risque d'être accusé de fraude ou la génération d'un dû. Et donc, on dit... Voilà, dans l'ensemble des pouvoirs publics, on dit qu'on veut lutter contre la fraude, mais enfin, lutter contre le non-recours aussi, mais la réalité, excusez-moi, c'est qu'on, de temps en temps, on se demande si on l'organise pas, ce non-recours.
Merci beaucoup, Claire Hédon, défenseur des droits. Merci d'avoir choisi RMC pour dévoiler donc votre rapport ce matin sur les dérives ou les excès de la lutte contre la fraude. Et merci à Alexandra pour son témoignage. Courage, Alexandra, dans ce labyrinthe administratif. Il est 7h51. Cécile Duflo, la voix de gauche sur RMC. Bonjour, Cécile.
Bonjour, Apolline.
Cécile, est-ce que vous savez écrire ornithorynque?
Oui, un H après le T. Un Y avant le N.
Bon, ben moi, je ne savais pas. Est-ce que c'est grave, docteur?
Eh bien, moi qui suis une psychopathe de l'orthographe, je peux vous dire que je croyais que c'était grave et que je pense que finalement pas et que le ministre se trompe.
Vous nous le dites dans un instant, il est 7h51.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, la voix de gauche, mais d'abord le bonus, Mathieu. On parle du FC Barcelone et en musique.
Oui, parce qu'on chante au stade pour le Barça, vous entendez l'hymne du club bien sûr, mais à Barcelone pour le prochain Classico face au Real, la musique s'affichera aussi sur les maillots. La chanteuse américaine Olivia Rodrigo vient d'être annoncée, choisie pour apparaître sur le maillot des joueurs. En fait, un logo de pub pour Olivia Rodrigo qui va remplacer le sponsor habituel qui n'est autre que Spotify. Et depuis 2022, la plateforme et le club marquent le coup pour les grandes affiches. Plusieurs poids lourds de l'industrie du disque sont déjà passés par le maillot du FC Barcelone. Les Stones, que vous entendez, mais aussi Drake. Coldplay, Rosalia, Travis Scott, visibilité maximale pour ces artistes. Olivia Rodrigo s'affichera donc sur le torse des joueurs du FC Barcelone le 10 mai prochain pour le Classico. Barça-Real, et le Barça pourrait même être champion ce soir-là.
RMC, Apolline Matin, voix de gauche, voix de droite.
Et ce matin, comme tous les jeudis, c'est la voix de gauche, Cécile Duflo. Bonjour Cécile.
Bonjour Apolline.
Le ministre de l'Éducation veut durcir la notation de l'orthographe, de la syntaxe et de la grammaire aux examens. Il a envoyé une note de service à tous les chefs d'établissement pour aller dans ce sens. Et pour vous Cécile, l'orthographe ne doit pas être une religion.
Eh bien, figurez-vous que je suis une psychopathe de l'orthographe repentie. Moi, j'étais une très bonne élève, très sage, qui avait compris que l'orthographe, c'était... la chose absolue à savoir. Donc j'étais très très bonne en orthographe. Je reste encore traumatisée par malgré que est une abomination de la langue française écrite en rouge et en caractère énorme sur une copie. Et dès que quelqu'un dit malgré que, tout mon corps se tend encore aujourd'hui. Et quand il y a une faute d'orthographe sur un texte, ça me pique les yeux. Je crois même avoir quitté un jeune homme il y a très longtemps parce qu'il avait écrit infiniment avec deux M.
Mais donc, non ouais. Mais non.
S'il m'entend aujourd'hui,
vous regrettez
toutes mes excuses. Toutes mes excuses parce qu'en fait c'est pas forcément une chose hyper importante.
Et donc vous n'êtes plus d'accord avec ça. Vous n'êtes plus d'accord avec la Cécile Duflo d'avant et vous n'êtes donc plus d'accord avec le ministre de l'Éducation d'aujourd'hui.
Mais non, parce que j'ai continué à lire et notamment à lire l'histoire de l'orthographe grâce en particulier à d'excellents livres et au travail des linguistes atterrés et j'ai compris que la langue et l'orthographe française c'est souvent illogique et absurde. Je vous donne un exemple. Chariot et charrette, ça vient du même mot, mais chariot, il y a un seul R, charrette, il y a deux R. Pourquoi ? Zéro raison, mais zéro raison. Et c'est souvent absurde, il n'y a pas vraiment de raison, mais c'est un puissant outil de distinction sociale, et ça a même été créé pour ça. C'est-à-dire qu'on a, si on regarde d'ailleurs le Littré, un grand dictionnaire historique, on voit qu'il y avait plein d'orthographes acceptées pour le même mot, jusqu'au 18e, 19e, et ensuite on a fossilisé l'orthographe en faisant une sorte de religion, et c'est devenu un outil, grâce à la dictée, un outil de sélection scolaire. Finalement, on a sanctuariser l'orthographe pour avoir un outil de sélection scolaire, alors que En fait, c'est sans doute l'orthographe le plus compliqué de toutes les langues. Le français, c'est pas une langue très compliquée à l'oral, mais à l'écrit, c'est dingue. Juste le son O. En français, vous pouvez écrire ça. O, O-T, O-D, A-U, E-A-U, E-A-U-X, A-U-X, A-U-L-T-A-U. C'est plus de l'orthographe, c'est de la poésie ou de la folie.
Mais ça veut dire que c'est inutile, l'orthographe?
C'est pas inutile, mais si on dit par exemple des chevals au lieu de des chevaux, on comprend. Mais tout le monde et tous les adultes vont reprendre des enfants. Alors que bah on pourrait dire animal, animaux, les animaux ça doit toujours être AUX. Non, pas du tout, parce que les chacals, bah c'est des chacals. Les narvals, c'est des narvals, c'est pas des narvaux, tu sais pas pourquoi. Donc il faut se dire que le vrai sujet de la langue, c'est de se comprendre, de pouvoir s'exprimer et de pouvoir faire des choses ensemble. Donc cette obsession de l'orthographe, en fait, c'est une obsession un peu dysfonctionnelle et surtout si elle conduit à empêcher des gens qui ont de grands talents de pouvoir continuer, là, ce serait vraiment une faute.
Et vous avez peur de ça? Vous avez peur que ce soit désormais quelque chose qui freine même la créativité possible des élèves?
Bah c'est ce qu'a annoncé le ministre. Il a dit, quelqu'un qui fait trop de fautes d'orthographe, il n'aura pas la moyenne. Alors, Thomas Edison, qui a inventé l'ampoule, il écrivait en phonétique. Il y a des tas de gens qui peuvent avoir d'autres talents que celui de l'orthographe, notamment de juger sur l'orthographe des copies de sciences ou même des copies d'histoire. Si on s'exprime bien, ça se comprend, même à cause des fautes d'orthographe.
Donc c'est une obsession, une lubie des ministres de l'éducation?
Oui, un peu. En fait, un ministre de l'éducation qui ne sait pas trop quoi dire, il dit vive la dictée, mais c'est pareil depuis le 19e siècle. Et ensuite, il dit on va rendre l'orthographe obligatoire au bac. Et figurez-vous qu'il n'y a même pas 3 ans, le ministre de l'éducation, Pap Ndiaye, avait dit les notes du bac seront affectées par le mauvais orthographe. Donc c'est une sorte de marronnier inutile. Donc vive l'orthographe, mais vive aussi la capacité de s'en libérer. Et toutes mes excuses à Sébastien.
On a bien compris. Cécile Duflo, la voix de gauche, demain vous débattrez face à la voix de droite. Oui, on a le prénom, Sébastien. Notez d'ailleurs que le ministre de l'éducation que vous avez rhabillé pour l'hiver sera l'invité des GG tout à l'heure. Il sera à 11h sur RMC. Il est 7h58, on se retrouve dans une poignée de secondes sur RMC pour la météo et le journal.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Merci d'avoir choisi RMC. Il est 8h. Très belle journée à tous.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Un hommage national à Montauban. Et l'émotion aussi ce matin à Suip. RMC est sur place dans ces villes, ville des 2 militaires français tués dans une embuscade le week-end dernier au Liban. Qui veut devenir patron? Le gouvernement veut faciliter, vous verrez, les transmissions d'entreprises. Le ministre du Commerce est d'ailleurs l'invité d'RMC ce matin, ce sera à 8h30. Et va-t-il vraiment chanter? Une pétition et des artistes demandent l'annulation de la tournée de Patrick Bruel, visée par des enquêtes pour viol et agression sexuelle.
Les villes de Suip et de Montauban rendent hommage à leurs soldats.
Une cérémonie d'hommage national aura donc lieu en fin de matinée à Montauban, dans la caserne précisément du sergent-chef Florian Montorio. Ce casque bleu de 40 ans, tué le week-end dernier donc dans une embuscade au Liban. Embuscade qui a également coûté la vie au caporal-chef Anissé Girardin, maître chien de 31 ans à Suip, c'est près de Reims. Blessé le week-end dernier, il avait été rapatrié en France avant-hier, mais il a succombé à ses blessures. Cassandre Bro, vous êtes en direct ce matin de Suip pour RMC, où les habitants lui rendent hommage.
Oui, c'est un village endeuillé qui se réveille ce matin. Les quelques habitants que je croise ici racontent que tous connaissent quelqu'un qui est au 132e, comme ils l'appellent ici. C'est le régiment auquel était rattaché le caporal-chef Anissé Girardin. Ce jeune père de famille de 31 ans qui est mort hier après avoir été blessé le 18 avril dernier au Liban, alors qu'il était en mission de reconnaissance pour ravitailler les casques bleus de l'ONU. L'émotion est d'autant plus vive que ce militaire laisse derrière lui une famille, un enfant de 2 ans. Tous les habitants de Suip ont une pensée pour ses proches et pour ses frères d'armes. On travaille avec eux. Les militaires font vivre la commune, me confie une habitante, les yeux brillants. Dans les petites rues, ici, on croise régulièrement de gros engins militaires, des treillis. Les quelques militaires aperçus ce matin pressent le pas, le visage fermé. Toutes les personnes que j'ai rencontrées sont très touchées. Toutes souhaitent participer si un hommage est organisé ici à Suip.
Cassandre Brault en direct donc ce matin de la Marne pour RMC. Pendant ce temps, le Liban et Israël doivent reprendre ce jeudi leur pourparlers. Ça se passe aux États-Unis où Donald Trump dit qu'il est possible que les discussions reprennent dans les prochains jours avec l'Iran. Bon, sans plus de précision. Et comme à chaque fois qu'il parle, les marchés réagissent. Cette nuit, les cours du pétrole étaient à la hausse avec les conséquences qu'on connaît en France sur les prix des carburants. Le gouvernement fait d'ailleurs savoir que les dernières aides vont coûter 180 millions d'euros pour le mois de mai après avoir coûté 150 millions d'euros en avril. Le gouvernement qui se soucie aussi de l'avenir des entreprises. 1,5 million de patrons vont passer la main là dans les 10 prochaines années. C'est donc un dossier majeur et le ministre des PME et du Commerce, Serge Papin, sera l'invité de RMC ce matin à 8h30 pour annoncer des mesures. Romain Cluzel, au service politique à RMC, vous nous dites que l'idée du gouvernement, c'est de faciliter les transmissions d'entreprises.
Et le ministre chargé du dossier, Serge Papin, évoque un mur de transmission dans les années à venir. 3 millions d'emplois vont être concernés par des cessions d'entreprises dans les 10 prochaines années. Pour éviter des milliers de fermetures d'entreprises ou des rachats par des fonds étrangers, l'exécutif mise sur la prévention. Tous les chefs d'entreprise de plus de 55 ans vont recevoir un courrier pour les appeler à anticiper leur succession. Ils auront aussi accès à un guide des bonnes pratiques. Et puis, le ministre des PME ambitionne de créer un Tinder de la reprise en utilisant une plateforme de la Banque publique d'investissement censée mettre en relation des investisseurs avec des patrons qui cherchent des repreneurs. Cette plateforme, elle existe déjà, mais sans grand succès pour l'instant. Le ministre le reconnaît, il faut la moderniser.
Les dirigeants européens se réunissent à Chypre aujourd'hui pour un nouveau sommet européen en présence de l'Ukrainien Volodymyr Zelensky qui va remercier les Européens d'avoir débloqué un prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine, prêt qui était bloqué jusque-là par la Hongrie. Avant ça, dans la journée, la France et le Royaume-Uni vont officiellement dévoiler le nouvel accord migratoire qui a été conclu hier soir pour tenter d'empêcher les traversées clandestines de la Manche et donc tenter d'éviter les drames migratoires. Romain, vous allez tout nous expliquer pour RMC. Alors, c'est pas le premier accord. Il y en a déjà eu un en 2018 dans la foulée de la crise migratoire. Il y en a eu un autre en 2023. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans celui-là?
Mais d'abord, on peut rappeler le principe de cet accord, de l'argent britannique contre des mesures prises côté français. Ça ne change pas. En revanche, des moyens supplémentaires sont mis en place. D'abord, le nombre de forces de l'ordre va être augmenté de moitié d'ici 2029. 1400 agents seront affectés à la surveillance du littoral français, dont une unité de CRS spécialement dédiée. Des moyens techniques également, comme des drones et des hélicoptères. L'objectif, c'est de mieux prévenir les tentatives de traversée, de réduire le nombre de départs et de démanteler les réseaux de passeurs. Pour financer ces mesures, le Royaume-Uni s'engage à verser 580 millions d'euros à la France sur les 3 prochaines années, plus. Et ça aussi, c'est une nouveauté, un genre de bonus financier, jusqu'à 186 millions d'euros conditionné à l'efficacité des mesures prises par les autorités françaises. Ces 4 derniers mois, 29 personnes exilées ont trouvé la mort en tentant de traverser la Manche.
Vous l'avez entendu un petit peu plus tôt ce matin sur RMC, l'association Oser le Féminisme, appuyée par une pétition et des artistes, demande l'annulation de la tournée de Patrick Bruel, qui doit se produire dans une cinquantaine de villes à partir de la mi-juin, mais qui est qualifiée, je cite, de tournée de la honte. Car le chanteur est, vous le savez, visé par 3 enquêtes pour viol et agression sexuelle. Et cette situation met dans l'embarras les organisateurs de tous ces concerts, nous dit pour RMC Victor Girard.
Avant le concert de Patrick Bruel, prévu le 24 juillet au Festival Grande Marée en Normandie, Pierre Béton reconnaît un certain malaise.
On n'est pas bien, on est fatigué déjà.
Lâche l'organisateur qui regrette les amalgames entre les accusations visant le chanteur et son festival où se produiront une vingtaine d'artistes. S'il comprend les inquiétudes des associations féministes...
Parce que c'est un sujet grave, qu'il faut traiter avec sérieux.
S'en prendre au festival n'est pas la bonne solution selon lui.
On rapproche les gens, on déploie des énergies positives. Là, on a une pétition contre un artiste qui vient chez nous et on n'est plus dans l'objet premier du festival. On n'est pas juge.
L'organisateur rappelle que Patrick Bruel bénéficie de la présomption d'innocence. Sa venue est donc maintenue. Même position du côté de Robert Albert Gucci, le directeur du festival Le Son by Toulon, où le chanteur est aussi attendu en juillet. Impossible de toute façon de faire marche arrière selon lui.
Il y a un contrat qui a été signé au mois de septembre. Il y a beaucoup d'argent en jeu puisque l'artiste a été payé. Il n'y a pas de clause qui dit qu'on peut annuler une date pour ça.
Le patron espère que l'affaire sera rapidement tranchée par la justice.
Soit qu'il y ait un jugement, soit qu'il y ait un non-lieu. Quelque chose qui puisse aller dans un sens ou dans l'autre pour que les festivals puissent repartir sereinement.
Patrick Bruel a assuré par la voix de son avocat n'avoir jamais contraint quiconque à un acte sexuel.
Et puis c'est une semaine de punition, vous savez, à Marseille, pour les joueurs de l'OM qui ont eu double dose d'entraînement hier et avant-hier et qui vont carrément se mettre au vert pendant 3 jours à partir d'aujourd'hui et jusqu'au prochain match de championnat. Ce sera dimanche contre Nice, hein, Florent Germain. Pour RMC, c'est en réaction, on le sait, à la mauvaise passe que traverse l'OM. Les joueurs sont pointés du doigt pour leur attitude sur le terrain. Il y en a un qui répond ce matin à votre micro RMC, Florent Germain, c'est l'Argentin Medina.
Oui, Facundo Medina a décidé de secouer le vestiaire de l'OM. Le défenseur argentin est connu pour son franc-parler, son caractère, et il n'a pas aimé du tout l'attitude de l'équipe à Lorient samedi, notamment celle de certains leaders, le champion du monde 2018 Benjamin Pavard ou le capitaine Pierre-Émile Heubier, entre autres.
Évidemment qu'on est triste et énervé par rapport à l'attitude de certains. On parle de joueurs expérimentés, joueurs de sélection, parfois champions du monde. Des fois, j'ai envie de dire, les gars, qu'est-ce qu'on fait? Vous me la faites à l'envers ou on peut partir à la guerre ensemble?
Facundo Medina dit même que les joueurs marseillais ont bien mérité la sanction de la direction, une mise au vert de 3 nuits à la commanderie à partir d'aujourd'hui. Objectif podium toujours possible, assure pourtant Medina.
Il reste 4 matchs, on est à 2 points des 3e, 12 points à prendre, tout est possible, ça dépend de nous, si tout le monde comprend qu'il faut mettre de l'engagement. Je l'ai dit dans le vestiaire, si on n'atteint pas l'objectif, au moins qu'on le fasse avec des joueurs qui ont laissé leur vie sur le terrain.
Des mots rares et forts pour un électrochoc, réponse dimanche soir avec un OM Nice bouillant au Vélodrome.
Et Nice qui s'est qualifié en finale de Coupe de France hier soir en allant gagner à Strasbourg 2-0, doublé de Wai. Ce sera dans un mois cette finale contre Lens au Stade de France.
Il est 8h09 sur RMC, c'était le journal de Quentin Vinet, c'est l'heure de parler économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Économie et impôts, Emmanuel Le Chip, parce que nous, Français, nous avons payé en 2025 plus de 50 milliards d'euros d'impôts supplémentaires.
Effectivement, 51 milliards d'impôts exactement en plus en 2025 par rapport à 2024. C'est ce que nous a dit hier soir le Haut Conseil des Finances Publiques. Augmentation des prélèvements qui nous a quand même permis d'éviter le bonnet d'âne européen en matière de déficit l'an dernier. Et ça, c'est ce que nous dit Eurostat, 5,1% de déficit public. Alors, il n'y a que la Belgique qui fait pire,
oui.
5,2%.
On n'est pas tout à fait dernier, mais presque.
Allez, absolument. Et alors, ce surcroît d'impôts, il a été quand même, il faut le reconnaître, largement supporté par les entreprises, plus que par les ménages. Mais tout ça pour essayer de faire face à des dépenses qui, elles, continuent de croître inexorablement pour dépasser quand même 57% du PIB. C'est moins de 50% pour la moyenne européenne. Pour vous donner un ordre d'idée, on dépense 240 milliards d'euros de plus par an pour notamment financer notre protection sociale. Et c'est l'autre mauvaise nouvelle aussi, c'est que vu tout ce qu'on dépense pour financer notre protection sociale, il n'est pas étonnant que le Français soit celui à qui il reste le moins à la fin du mois, une fois payé toutes les cotisations sociales, avec le Belge et l'Allemand, il faut le reconnaître. Quand un salarié coûte 100 à son employeur, il ne lui reste que un peu plus de 52 euros contre 65 en moyenne dans les grands pays de l'OCDE. C'est quand même 13 euros à chaque fois. Ça n'a jamais été aussi peu depuis 10 ans.
Et le problème, c'est que ça va pas s'arranger, parce que là, avec la guerre, on le voit bien, les finances publiques sont dans le rouge.
Eh ben exactement. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que le gouvernement veut aller chercher 6 milliards d'euros d'économies cette année, mais ça ne suffira pas, parce que les aides vont durer encore quelques mois. Vous voyez qu'on est parti sur un tarif de 200 millions d'euros mensuels pour encore sans doute quelques mois, parce que toutes les aides sociales, les minima sociaux et notamment les retraites vont être revalorisées avec l'inflation, parce que la partie de la dette publique indexée sur l'inflation va coûter plusieurs milliards, sachant que la France est déjà le seul grand pays européen dans lequel la dette a continué de croître ces dernières années. Vous connaissez la citation de Talleyrand, Apolline,
non,
quand je me regarde, je me désole.
Ah oui,
quand je me compare, je me console. Je me console. Et ben quand on regarde les finances publiques de la France, on se désole, et quand on se compare, on se désole encore plus.
On ne se console pas du tout.
C'est ça le problème.
Merci Emmanuel. Les prix du jour comme chaque jour, et cette fois-ci, eh bien, ça remonte.
Oui, j'ai peur qu'on soit en train d'avancer.
On est en train de remonter
renversement de tendance, hein. C'est vrai, sur le gazole, on est reparti à la hausse.
Ça y est, ça remonte.
2,17€ contre 2,16€ en début de semaine. Le sans-plomb 95, on avait approché la barre des 1,95, on est remonté à 1,97. Le pétrole a rebondi, on est à plus de $103. Le baril contre 90 il y a une semaine. Et même le gaz, qui était sur une trajectoire baissière, est reparti lui aussi un peu à la hausse. 44€ le mégawatt.
C'est comme si on avait touché le fond de la piscine et que ça remontait.
Exactement.
Quoi.
Ouais. Là, on voit bien que les tensions récentes, finalement, jouent comme une force de rappel sur les prix de tous nos carburants.
Merci Emmanuel, 8h12.
Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Notez pour la suite dans un instant, Arnaud Demange va venir nous rejoindre à 8h30 dans le face-à-face. Mon invité, c'est le ministre des PME, du commerce, du pouvoir d'achat, Serge Papin. Évidemment, je l'interrogerai sur ce que nous disait à l'instant Emmanuel Le Chypre. Ça repart à la hausse, les prix à la pompe, le prix du baril. Que faire? Est-ce que vraiment il va réussir à aider ceux qui sont les gros rouleurs? Et puis, est-ce que d'ailleurs les distributeurs profitent de la crise? Quels sont les résultats de l'enquête sur les marges? Il nous le dira évidemment à 8h30, et puis on parlera aussi de la transmission des entreprises. Juste après, il y aura aussi le meilleur de Nicolas Canteloup. Nicolas Canteloup, c'est tous les jours sur RMC à 8h50. Il est 8h13, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Oh, bonjour les amis.
Il est avec nous Arnaud Demange. Salut Arnaud.
Ah, Apolline, ce matin, j'avais envie qu'on se change un peu les idées. Je voulais vous parler à tous d'amour.
Ouais.
Parce qu'on a déjà eu la paparazzade entre Jordan Bardella et sa princesse Maria Carolina de Whisky des Deux Corses, de Bourbon des Deux Siciles. Tiens, est-ce que vous savez à quoi ça fait référence, les Deux Siciles? C'est intéressant.
Oui, c'est vrai, je pensais qu'il n'y en avait qu'une.
À Sicile du Flo et à Sicile de Minibus. Peu de gens le savent, mais voilà, avec
Siciles.
Arnaud Demange, on apprend en s'amusant. Alors, petit préambule à cette chronique. Je suis fatigué. Ça s'est senti peut-être dans cette vague. Donc, c'était caliente, cette paparazza de Bardella à la princesse. C'était chaud comme un magasin Picard en février. Ça m'a rappelé ma dernière réunion de copropriétaire quand on a décidé de mettre de l'isolant sous la toiture. Ah, oh, chaleur. Eh bien, l'amour envahit le cœur de tous nos politiques.
Oui.
Car Gabriel Attal, à son tour, évoque dans son livre « L'amour de sa vie » l'ancien ministre macroniste Stéphane Séjourné.
Oui.
Ça doit être très sympa leur dîner à tous les deux le soir. Stéphane, t'as fait quoi aujourd'hui au bureau?
Bah, j'ai dit du mal de Macron. Et toi?
Oh, moi aussi j'ai dit du mal de Macron. Oh. Ça va les enfants? Vous avez été sages? Oui papa. Pardon, monsieur le président. C'est lui qui les a fait.
Exceptionnel. On part en Iran, Arnaud.
Non. Ben moi, ça va être
enfin, non, moi, non, en fait. Hein.
Vous faites ce que vous voulez, mais non. Finalement, non. On va parler de la guerre au Moyen-Orient. Donald Trump estime qu'il sera long et difficile d'exhumer l'uranium iranien. Parce qu'il y a aussi l'uranium à gérer là-bas. Oh là là.
Quelle affaire.
Ouais, ouais. Il y a ça aussi. Hein.
Ouais.
Ça, c'est l'uranium, Apolline.
Voilà.
Des fois, il est enrichi. Des fois, il n'est pas enrichi.
Ouais.
Alors, on le redit, l'uranium, c'est à consommer avec modération.
Tout à fait.
Alors, l'uranium, Trump a proposé de l'enterrer à 10 km sous terre avec les fichiers Epstein.
Voilà.
Mais vous savez, non, mais c'est vraiment sérieux, l'uranium. J'en parlais avec le général Pellistrandi hier. Vous savez, le monsieur militaire qui est sur BFM TV depuis 54 jours non-stop, le pauvre. Je suis allé le voir en loge. Je lui ai dit, bonjour général. Chut, ferme la porte. Je suis en train de creuser un tunnel avec mon stylo bic. Je dois tout recommencer parce qu'hier, je suis arrivé dans le studio de BFM Business. J'ai vu les présentateurs tout nus en train de faire l'amour sur un lit de page Saubon du Figaro. Il a dû tomber sur la préparation de l'émission d'Edwige Chevrillon et Emmanuel Mouchy.
Mais Arnaud, vous êtes vraiment fatigué, hein. C'est pas possible.
Ça faisait. Et à cause des vibrations, mon tunnel s'est effondré. Je dois tout recommencer.
Alors Arnaud, vous vouliez nous parler. Alors Arnaud, vous vouliez aussi nous parler de Pierre-Édouard Sterrin, le milliardaire d'extrême droite qui est devenu donc actionnaire de l'entreprise qui organise des grands banquets, les banquets du canon français.
Oui.
Certains se plaignent de ces événements qui seraient le théâtre de remarques racistes, sexistes, voire néo-nazis.
Oui,
c'est ça ce que vous vouliez que je vous dise.
Exactement. Ben, c'est un sujet. Pierre-Édouard Sterrin, pour vous situer un peu le bonhomme, il déclarait en interview il y a quelques jours « Je suis plus à droite que l'extrême droite ». Ça pose le mec.
Ça pose un gars.
Alors, vous savez qui c'est? À la base, c'est le fondateur des Smartbox. Il a fait fortune avec les Smartbox parce qu'on les offre à Noël, mais personne ne les utilise jamais. Alors, si vous voulez faire barrage à l'extrême droite, utilisez vos Smartbox. Je sais, vous serez obligé d'aller faire 3 jours de stage de montgolfière à Vierzon. Mais faut ce qu'il faut. Utilisez-la, Pauline, la Smartbox pour un week-end topinambour et pas de réseau en Moselle. Pensez à De Gaulle. Lui, il aurait dit, ma chère Yvonne, nous devons faire 2 jours d'acrobranche à Limoges pour la France. Et c'est l'occasion d'un quiz, Apolline. Smartbox existe-t-elle?
Ah oui, on en est là quand même.
Eh oui.
D'accord.
Top, c'est parti. A gagné une Smartbox dédicacée par Pierre-Édouard Sterrin, découverte du Troisième Reich dans les Landers allemands.
Oh,
attention.
Non.
Main sur les buzzers. Cette Smartbox, top. Une Smartbox escapade insolite Est-ce qu'il n'y a pas d'insolite pour deux dans un tonneau en Haute-Normandie?
Oh non, oh oui,
oui, oui, bien mais sûr, non. Oui. Une smartbox nuit dans un hôtel Kyriade en banlieue d'Annecy en semaine.
Non.
Oui.
Mais non.
Oui. Alors, pas en ces termes, c'est une cliente qui se plaint du résultat dans un article du Figaro. Quand je vous dis utilisez-les, utilisez-les. Alors, sur le site de Smartbox, donc de Pierre-Édouard Sterrin, le catholique, il y a un onglet cadeau pour sa maîtresse. Oh.
Oui, je pense que ça existe.
Alors oui, mais il y a une petite subtilité, ah. C'est uniquement si t'as envie d'offrir une smartbox à la prof de tes enfants. C'est une maîtresse,
c'est maîtresse,
quoi, c'est la maîtresse. Là, il est catho, c'est une maîtresse d'école. Alors donc la box pour les profs, je sais pas ce qu'il y a dedans, probablement un abonnement à Télérama, une visite de France Inter, c'est super. Sur le site, il y a aussi un onglet cadeau à votre curé et c'est un escape game avec des scouts.
Non,
c'est pas vrai. Il y a une smartbox activité entre amis, une heure de lancer de hache près de Fontainebleau.
Oui, c'est possible oui. Ça.
Y a une smartbox activité entre amis, une heure à fumer du hache près de la Courneuve. Non. Il y a une smartbox cuisinons deux jours avec Mathieu Béliard. Les enfants, venez goûter. Papa, il a fait des émulsions de légumes oubliés et de mousse de boudin blanc. Oh non. Encore. Alors, il n'y a pas, mais est-ce que vous pourriez nous l'offrir, Mathieu?
Ouais, ce serait bien, et on vient
allez,
tous.
Venez comme vous êtes.
À demain.
Merci
à demain.
Arnaud qu'on retrouve évidemment tous les jours, à tout moment en podcast et en tournée. Il sera à Genève, à Dijon, à Hyères, à Reims, à Chambéry, à Orange, à Toulouse et même à Paris, en solo. Au solo.
Le 14 mai
prochain.
C'est dans une
smartbox.
Il
est 8h21 dans un instant de face à face. Et justement, Nicolas a une question à poser à mon invité. Bonjour Nicolas.
Oui, bonjour Pauline. Je suis avec vous.
Vous êtes avec nous et vous êtes commerçant à Montargis. Vous aviez une question pour ministre des PME.
Oui, parce qu'on parle en fait de succession. Hein.
Ouais.
Encore faut-il avoir quelque chose à succéder.
Ouais.
Parce que nos commerces meurent de plus en plus dans nos centres-villes, hein, on le voit. Hein, et du coup, la vraie question, c'est avant de passer ou de penser aux successions, comment on va faire pour valoriser nos entreprises.
Vous avez l'impression d'être complètement sous l'eau aussi à cause des décisions de l'État?
Oui, complètement, hein, puisque en fait, aujourd'hui, on voit que le consommateur a un réflexe de peur, et du coup, il déserte nos commerces, puisqu'il fait des arbitrages, hein, tout simplement, en ce moment, et depuis le Covid, on le voit, hein, dans tous les magasins, les gens freinent pour tous les achats et font des arbitrages. Voilà.
Donc vous aimeriez bien avoir quelque chose à transmettre précisément. Merci en tout cas d'avoir appelé Nicolas. Nicolas qui est donc commerçant à Montargis. Il est 8h23 sur RMC. Merci d'écouter RMC. Il est 8h24.
RMC, Apolline Matin.
Le rappel des titres, Clément Gouitz.
Un hommage national ce matin aux militaires de Montauban, tués au Liban le week-end dernier dans une embuscade menée par le Hezbollah. Embuscade qui a coûté la vie hier à un deuxième soldat français. Il s'agit du caporal-chef Anissé Girardin, 31 ans. Il faisait partie du 132e régiment d'infanterie de Suippes dans la Marne. On connaît l'affiche de la finale de la Coupe de France. L'OGC Nice défiera Lens après sa victoire hier soir 2-0 face à Strasbourg. Et le PSG reprend 4 points d'avance sur Lens en Ligue 1 après sa victoire hier 3-0 face à Nantes. La météo, grand soleil quasiment partout. Il restera des nuages et des averses ce matin entre les Charentes, le Massif central et le Languedoc-Roussillon. Côté température, il fait de 1 à 11 degrés. 1 à Lille, 11 degrés à Saint-Étienne.
C'était le rappel des titres de Clément Gouitz. Dans un instant, le ministre des PME et du pouvoir d'achat, Serge Papin, est mon invité. On va parler prix, évidemment.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Serge Papin.
Bonjour Apolline de Malherbe.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat. Et avec tout ça, on a quand même l'impression de faire quasiment le tour de toutes les préoccupations du moment des Français, de leur quotidien, les prix évidemment à la pompe, la question des renégociations éventuelles des prix avec la grande distribution, la question des entreprises, même de la transmission d'entreprises. Vous voulez aider davantage à transmettre les entreprises et puis finalement la question aussi de l'emploi et du pouvoir d'achat. On le regarde ce matin, les chiffres montrent que c'est comme si on avait, ça y est,
réatteint un plancher et que ça remonte. Alors ça remonte légèrement, mais quand on regarde le gazole, il repart à 2,17€ contre 2,16€ en début de semaine. Le sans-plomb 95 repasse à 1,97€ ce matin. Il était à 1,96€ hier. Est-ce que ça veut dire que ça y est, c'est fini, ça remonte?
Il y a une baisse depuis le 8 avril, hein, en moyenne de 16, de 17. Moi, je dois m'assurer qu'il y ait une transparence, hein, dans la volatilité, parce que le marqueur de cette crise, c'est la volatilité. Hein, ça, voilà. Et ce qu'il faut, c'est qu'on s'assure et on a les moyens, le gouvernement, les moyens de contrôler les prix, les marges, de manière à ce que ça soit répercuté à la baisse.
Vous avez lancé une recherche pour justement vous assurer que ces marges ne sont pas excessives.
Voilà, et donc on a des réunions, j'en ai une en fin de journée aujourd'hui avec les distributeurs. On doit avoir cette transparence, que on soit sûr, et je suis dans mon rôle, hein, qu'il y ait, aussitôt qu'il y ait une baisse, que ça soit répercuté. Donc là, la courbe des marges qui a été contrôlée par les services de la DGCCRF montre qu'au début de la crise, il y a eu petite envolée des prix, des marges, donc, et qu'après les choses se sont lissées, hein, et qu'il y a eu une répercussion, que les distributeurs ont joué le jeu. Donc il faut qu'on continue à s'en assurer, et c'est ce qu'on fait quotidiennement. J'ai pas un doute, hein, mais je contrôle. Voilà, je contrôle pour être certain.
Vous voulez dire que la confiance n'exclut pas le contrôle.
Exactement. Et puis, on a des outils qui seraient disponibles au cas où on s'apercevrait que les choses sont pas répercutées assez vite.
Ces outils, c'est ce fameux décret que vous avez dit avoir écrit. Il n'y aurait plus qu'à le publier le cas échéant. Mais les distributeurs ont quand même l'impression d'avoir bon dos et de jouer vis-à-vis de vous une sorte de rôle de bouc émissaire confortable.
Non, il faut que tout le monde joue le jeu. Chacun dans son registre. Les distributeurs, moi j'ai été vendeur de carburant.
Vous avez été vous-même à la tête des magasins U.
Et c'est vrai que quand on a... Oui, j'ai eu un magasin aussi. Hein. Et donc le carburant, c'est un prix d'appel. C'est parce que les gens viennent faire leurs courses en voiture. Donc c'est l'intérêt des distributeurs que le prix du carburant soit le moins cher. Donc voilà, simplement,
oui, mais alors, il y a un paradoxe, c'est-à-dire que vous nous dites d'un côté, moi je sais parce que j'ai été moi-même à la tête de mon magasin, qu'en vrai, il n'y a pas beaucoup de marge là-dessus, et dans le même temps, régulièrement, vous dites, on va mener des contrôles, parce que
oui, parce que l'État est dans son rôle pour pas qu'il y ait d'effet d'aubaine par rapport à ça.
Alors, les distributeurs aujourd'hui...
Voilà, on constate que, voilà, ils jouent plutôt le jeu.
Les distributeurs, ils estiment quand même que régulièrement vous ressortez cette carte-là. Je voudrais juste que vous écoutiez les mots de Michel-Édouard Leclerc à propos de vous. Il était mon invité à ce même micro le 10 avril dernier. Il considère que c'est un peu gonflé de votre part. Écoutez.
Et d'avoir en plus un ministre du Commerce qui vient de chez nous et qui sait qu'on prend pas de marge, on n'a pas aimé, d'accord.
Là, vous parlez de Serge Papin, qui a été l'ancien patron
dans la distribution. Là, d'avoir un de chez nous
aujourd'hui,
qui est ministre du Commerce et qui vient se balader en bagnole avec des caméras pour dire je viens contrôler dans les stations des grandes surfaces, c'est sûr que c'est pas notre truc.
Ça vous a pas plu, ça?
Non, mais Michel-Édouard, écoutez, il me cherche.
Oui, un peu, là, franchement.
Depuis, mais c'est pas d'aujourd'hui, hein. Il le faisait quand j'étais à la tête de mon groupement. Parce que voilà, il faisait bien marquer les différences, hein. Il m'a reproché quand j'ai fait le rapport Egalim. Et là, il oublie juste une chose. Moi, je me préoccupe de l'intérêt général du pays. Je suis ministre de la République. Et donc, ce qui m'anime, c'est l'intérêt général, c'est l'équilibre. Moi, je suis pas dans la défense corporatiste de mon entreprise. J'ai changé de registre, donc voilà, faut juste utiliser cette perception. Hein.
Vous trouvez du coup que c'est lui qui exagère?
Bah, bien sûr, c'est lui qui exagère. Lui, il est dans la défense de ses intérêts. Moi, je suis dans la défense des intérêts des Français. Et je suis dans mon rôle quand je contrôle s'il y a bien la répercussion des prix.
Voilà. Est-ce que vous avez les résultats de ces contrôles?
Oui, on les a, les résultats de ces contrôles. Alors, on va en parler ce soir, ce que je vous ai dit. C'est-à-dire, on s'est aperçu qu'il y avait, au début du conflit, donc il y a eu une montée excessive, un peu. Hein, voilà,
il y a eu début, un excès
au début,
dans les marges des distributeurs.
Au tout début. Et après, les choses sont rentrées dans l'ordre. Donc, on s'assure juste que ça va continuer comme ça.
Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, Serge Papin vous avez désormais les résultats qui prouvent que les distributeurs ne profitent pas de la crise.
Actuellement, par rapport au contrôle que l'on fait, on peut dire ça, oui.
On peut dire ça aujourd'hui. Oui. Mais vous gardez en quelque sorte le pistolet sur la tempe en leur disant, si vous exagérez, on ressort ce décret.
On a des outils, dont ce décret, et dont surtout la DGCCRF qui fait son travail quotidiennement. Puis on fait des réunions. Écoutez, on va avoir, avec les distributeurs, deux réunions cette semaine.
Mais ça va changer quoi ?
Ça permet à chacun de s'expliquer, de vérifier si les engagements sont tenus. Voilà, on est dans le dialogue aussi. Chacun, dans son registre, doit jouer le jeu.
Est-ce que ce matin, vous pouvez dire, effectivement, on l'a vu, hein, ça a repris un centime par rapport à hier. Est-ce que vous
dites... C'est volatile.
Désormais, et on voit d'ailleurs le prix du baril est repassé au-dessus des 100 $, que dans les jours qui viennent, il faut s'attendre probablement à ce que ça remonte à nouveau.
La crise va durer, ça c'est probable, hein. On ne sait pas si c'est quelques semaines ou quelques mois, donc il faut toujours avoir le discernement par rapport à ça. Et moi, ce que j'entends aussi, c'est que les négociations continuent. Je vais vous dire même ce que ceux qui sont dans les négociations disent, enfin tout ce que j'entends, y compris des membres du gouvernement qui rapportent ça. Plus l'accord va prendre le temps d'aboutir, plus cet accord sera sérieux. Et donc là, on voit que les discussions durent.
Donc il faut être patient.
Il faut être patient, voilà.
Il faut être patient, mais vous dites aussi aux Français de l'être, forcément.
Écoutez, on ne fait pas rien. Mmh. Hein, on a une stratégie d'accompagnement des métiers qui le nécessitent. Et l'espace-temps, c'est chaque mois. Là, ce qu'a exprimé le Premier ministre pour le mois de mai, c'est la continuité des soutiens aux activités agriculteurs, transporteurs, pêcheurs. S'y rajoutent deux autres secteurs. Donc, le BTP. Donc, avec les entreprises de moins de 20 salariés dans le BTP qui vont bénéficier d'un soutien et les grands rouleurs. Donc, dans les grands rouleurs, vous avez les aides-soignantes, les aides à domicile, les infirmières en zone rurale. Donc, on a élargi le soutien. Et ça, c'est pour le mois de mai. Vous voyez, le temps pour la gestion de cette crise, c'est le mois. Donc là, on a ce qu'on pourrait appeler un paquet d'aides.
Ce sera prêt quand ?
C'est prêt. C'est prêt, ça sera applicable dès le 1er mai.
Ça sera applicable dès le 1er mai. Serge Papin, vous êtes aussi le ministre, je le disais, des PME, du tourisme. Le tourisme, on va y revenir parce que ça a de grosses conséquences aussi. Le prix du kérosène, je voudrais y m'y arrêter un instant. Plusieurs compagnies, notamment alors la compagnie Lufthansa, dit carrément qu'elle va réduire 20 000 vols parce qu'elle veut finalement économiser son kérosène. C'est aussi des hausses de prix du billet. Air France qui annonce une hausse des prix du billet pour les longs courriers mais aussi pour les petits et moyens courriers de l'ordre de 20 à 50 euros jusqu'à 100 euros pour les longs courriers. Est-ce que ça vous inquiète ?
Écoutez, en termes d'approvisionnement de kérosène, on n'a pas de difficulté. On a la raffinerie de Gravenchon là, qui fournit le kérosène, qui a augmenté sa production. Donc en termes d'appro, il n'y a pas de difficulté. Au niveau des prix, oui, il y a eu une augmentation, je l'ai vu comme vous. Alors, est-ce que je suis inquiet ? Je suis ministre du tourisme aussi. Hein. Ce que j'entends aussi, c'est que beaucoup de choix de nos concitoyens, ça va être d'être un petit peu plus, de rester dans notre pays cet été, de moins utiliser l'avion, qui en effet, pendant cette période, souhaitons que ça soit une parenthèse qui s'arrête le plus vite possible, mais le prix du kérosène augmentant, ça se traduit dans le prix des billets d'avion.
Les PME, est-ce qu'il faut rouvrir les négociations commerciales ? Un certain nombre de PME dans l'agroalimentaire commencent à dire que les accords qui avaient été signés au 1er mars avec la grande distribution l'avaient été sur des bases de prix avec des matières premières, avec une énergie qui n'était évidemment pas celle d'aujourd'hui. Ils disent qu'on va pas forcément réussir à tenir. L'ANIA, qui représente notamment toutes ces marques d'agroalimentaire, dit il va falloir sans doute que pour une partie d'entre nous, on puisse rouvrir ces négociations. La grande distribution, elle dit pas question. Vous, vous dites quoi ?
Enfin, là aussi, c'est un outil. Hein, on verra, c'est une possibilité. À date, là, pour l'instant, moi j'ai aussi eu des discussions de ce point de vue-là. Il n'y a pas dans mon bureau des gens qui viennent de me demander là tout de suite de réouvrir les négociations.
Vous n'avez pas l'impression qu'il y a une urgence ?
Il n'y a pas d'urgence. On va faire un point, sans doute à la fin du deuxième trimestre, et on verra les conséquences qu'il faut en tirer. Ce que je peux dire quand même au niveau du pouvoir d'achat, de ce point de vue-là, c'est que les prix ne vont pas augmenter pour l'instant, et le médiateur des négociations qui va s'exprimer dit que il n'y a pas eu de hausse sur les prix de l'alimentation.
Dans les négociations qui ont donc été terminées au 1er mars,
à la fin des négociations,
on sait qu'aujourd'hui, les prix tels qu'ils ont été fixés, et donc pour l'année qui vient, il n'y a pas d'inflation.
Il n'y a pas là zéro inflation.
Zéro. On est sur l'épaisseur du trait, c'est-à-dire que les prix dans les rayons
n'ont pas bougé. Et donc,
vous pouvez l'affirmer ce matin.
Oui, je l'affirme ce matin parce que j'ai les éléments. Ils ont progressé précisément de 0,04.
Voilà. 0,04%. Donc, exactement. En effet, on est vraiment sur une stabilité des prix.
Stabilité des prix alimentaires.
Voilà. À ce stade. Évidemment, la question, c'est s'il y avait réouverture négociations, ça serait sans doute à la hausse.
Voilà, et les industriels sont aussi conscients que les volumes sont pas significatifs. Hein. Personne n'a envie d'augmenter les prix. Donc, bien sûr, après, on verra la nécessité de le faire ou pas le moment venu.
Serge Papin, vous êtes, je le disais, le ministre aussi des petites et moyennes entreprises. Il y a un grand défi qui est la question de la transmission des entreprises. Oui. Parce qu'il y a un certain nombre de patrons qui arrivent à plus de 55 ans, qui n'ont pas forcément encore tout à fait un plan pour la suite. Et vous lancez aujourd'hui un plan sur la transmission des entreprises. Ça va marcher comment? Vous allez écrire aux patrons, vous allez anticiper, vous allez leur dire il faut vous en préoccupiez dès maintenant?
Il faut en faire une grande cause économique nationale. Parce que ça, c'est un vrai défi.
Qu'il y a un gros risque sur l'emploi?
Il y a 550 000 entreprises qui vont changer de main dans les 10 ans. Donc, ça concerne 3 millions de salariés. Et ça veut dire qu'il faut anticiper. Et vous savez, on parle beaucoup de souveraineté, on parle beaucoup d'indépendance hein, en ce moment. On voit bien que il faut que, au niveau de l'Europe et au niveau de la France, on soit pérenne, on soit souverain. Et on le fera pas sans notre économie. Et ça, c'est vraiment la mère de toutes les batailles hein, de s'occuper des transmissions. Donc oui, on va prévenir tous les chefs d'entreprise qui ont plus de 55 ans pour leur dire, oui, anticiper, parce qu'il y en a pour qui, c'est une angoisse, hein, la transmission. On va créer un site, on va dire, on pourrait appeler ça le Tinder de la reprise, pour mettre en lien ceux qui ont envie de reprendre avec ceux qui ont envie de céder. Les chambres de commerce, les chambres des métiers vont organiser aussi des journées de la reprise tous les mois pour avec les acteurs. Et puis on se préoccupe aussi du financement de tout ça.
Alors, j'avais ce matin un auditeur, il a une boutique, un commerce de chaussures à Montargis, et il vous interrogeait ce matin, il m'appelait sur RMC, et il disait, mais moi j'adorerais pouvoir me préoccuper de transmettre mon entreprise. Mais il dit, le problème c'est que pour l'instant, les entreprises vont surtout très mal. Le nombre de faillites d'entreprises, la difficulté des commerces, il dit aujourd'hui, d'ailleurs, le commerce se porte mal, les Français rechignent à consommer, ils sont inquiets, ils trouvaient presque que vous mettiez la charrue avant les bœufs.
Ben non, ça s'oppose pas. Hein. Alors, pour ce qui concerne les difficultés, on a mis en place, il y a quelques semaines, un plan d'accompagnement, ce qu'on pourrait appeler les défaillances. Et ça veut dire que les services de l'État, qui sont animés par la médiatrice du crédit ou par la direction du Trésor, coordonnent une action d'accompagnement quand il y a des difficultés. Juste une information quand même, 70% des entreprises qui font appel en anticipant parce qu'il y a des difficultés s'en sortent. Donc vous voyez, on est aussi...
Les défaillances d'entreprises et les moindres emplois. On sait que, et c'est France Travail qui a révélé ce chiffre hier, il y a eu moins 6,5% de création d'emplois cette année.
Oui, on est dans des difficultés sans doute, mais nous, on essaie de faire un travail justement pour anticiper et sortir de ces difficultés. Moi, je veux faire de la reprise là justement, vraiment une cause économique nationale. Et donc, on met en place des moyens pour faire en sorte que la création d'emplois continue. Et
vous leur dites de transmettre.
C'est toute une génération. Non, et c'est toute une génération qu'il va falloir relever.
55 ans. Vous leur écrivez donc à 55 ans. Ils vont recevoir une lettre. Ces patrons de plus de 55 ans. Vous en avez parlé avec Bernard Arnault?
Ben, je pense que lui-même est dans la succession.
Justement, je me posais la question, j'ai regardé, il a 77 ans, il venait de rajouter 3 ans pour pouvoir diriger son entreprise qui a 80 ans, et il propose, semble-t-il, là, de rajouter 5 ans pour pouvoir rester aux manettes d'LVMH jusqu'à l'âge de 85 ans. Oui, là, vous dites que vous allez écrire au patron de 55 ans, mais est-ce que vous en avez parlé avec lui de la transmission d'LVMH ?
Je pense que dans la famille Arnaud, il y a ce qu'on pourrait appeler un tuilage. Vous savez, il y a la génération qui est déjà aux affaires, je pense que ses enfants sont aux affaires. Lui est toujours là, mais ils sont pas du tout dans le même registre. Et après, vous savez, moi, j'ai transmis mon entreprise. J'ai fait ce qu'on appelle un crédit vendeur à celui qui a repris le magasin. C'est un jeune, il était d'ailleurs rentré au passage comme saisonnier. Il a monté les échelons et je l'ai accompagné aussi. Je l'ai accompagné par ce crédit vendeur, mais je l'ai accompagné aussi en étant là, en étant avec lui. Et ce que fait Bernard Arnault, en tant que père, il accompagne aussi ses enfants.
C'est un modèle pour l'économie française.
C'est un bon modèle, cet accompagnement. Alors, il le fait, lui, dans une très grosse entreprise. Mais moi, ce que je retiens là-dedans, c'est l'accompagnement. Et je pense notamment, pour les reprises, quelque chose que je mets en avant, c'est le crédit vendeur qui est à la fois un accompagnement du savoir-faire et un accompagnement financier. Et c'est des dispositifs comme ça que je veux mettre en avant.
Serge Papin, un mot sur l'immigration de travail. Pedro Sanchez, qui est donc le premier ministre espagnol, a annoncé vouloir régulariser 500 000 immigrés en situation irrégulière, mais qui travaillent sur le sol espagnol. Est-ce que vous vous dites, au fond, peut-être qu'il faudra le faire aussi en France ?
Il faudra réfléchir à l'immigration. Je vois bien que c'est un débat sociétal. Hein. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une immigration qui soit choisie. Ceux qui nous rejoignent, qu'ils adoptent le mode de vie qui est le nôtre. Et à ce moment-là, sans doute, oui, parce que on a une démographie qui est en berne. Il faudra bien qu'on trouve des travailleurs. Hein.
Et donc vous dites, potentiellement, cette proportion-là, c'était 400 000 en Italie, c'est 500 000 maintenant en Espagne.
C'est un sujet qu'il faudrait aborder sereinement et pas dans le clivage et dans la caricature, comme parfois c'est celui du débat politique actuellement. Et je pense que on peut avoir, nous aussi, à notre façon, une immigration qui soit choisie.
Donc régulariser.
Qui soit intégrée.
Régulariser plusieurs centaines de milliers d'immigrés irréguliers.
Je dis pas ça. Je dis qu'il faut qu'il y ait une intégration en fonction des besoins. Il faut que ça soit réfléchi. Il faut que ça soit débattu. Il faut que ça soit compris. Il faut pas qu'on associe systématiquement les problèmes d'immigration et les problèmes de sécurité. Il faut dépasser ça et avoir un dialogue constructif. Ça fera sans doute l'objet d'autres échéances.
Et vous pensez, je pense, à 2027. Merci Serge Papin d'avoir répondu à mes questions. Vous êtes le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat. Il est 8h47 sur RMC BFM TV. Ne bougez pas sur RMC. Dans un instant, on va rire avec Nicolas Canteloup. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
8h50, face à Canteloup.
Tous les matins, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Roland Lescure, le ministre de l'économie, était mon invité ce matin. Et toujours avec nous.
Bonjour à tous, petite erreur, c'est Nagui, bienvenue, Cécile est toujours avec nous bien sûr, bienvenue dans votre jeu, tout le monde veut prendre sa place, c'est notre candidat du jour, c'est Roland Lescure, c'est vrai que c'est très compliqué en ce moment avec l'explosion du prix de l'essence, la dette abyssale, l'inflation qui menace, c'est pas le meilleur moment pour être ministre de l'économie, on va voir si quelqu'un veut prendre votre place. Roland, y a-t-il des candidats ? Attention à la 1, à la 2, à la 3. Non, c'est gagné, Roland. Bravo, personne ne veut prendre votre place, tellement elle est pourrie, tellement c'est le bordel dans le pays. Vous repartez avec, cher Roland, une boîte de Kleenex et 2 ans d'antidépresseurs. Bravo, allez, ciao.
Nicolas Sarkozy, bonjour. Hier, c'est donc ouvert votre procès en appel dans le dossier du financement libyen de votre campagne.
Donc c'est le financement libyen aujourd'hui. D'accord. Non, merci pour l'info, ma malheur. Non, c'est gentil. Parce que je vous avoue.
Vous y perdiez un petit peu, là.
Ben, avec toutes ces affaires, je sais jamais où que c'est qu'on m'accuse, alors que je suis innocent. Mais même, moi, je commence à m'y perdre dans toute cette innocence.
Ah oui. Bon, c'est le dossier, là, qui vous avait valu un séjour en prison après votre condamnation pour association de malfaiteurs.
Non mais quelle indignité, Mme Pujadas. Primo, j'ai jamais rien malfaité.
Ah oui.
Et deuxièmement, association de malfaiteurs, association me concernant, ça tient pas une seconde, j'ai jamais fait dans l'associatif. Ah oui. mon truc à moi, c'est pas l'associatif, c'est les conférences à 100 000, les conseils d'administration à 200 000 et les bouquins à 300 000.
La cour d'appel rendra sa décision le 30 novembre.
Le 30 novembre? Ah oui, mais ça m'arrange pas du tout, ça.
Ah bon?
Ah ben ça va faire trop court pour écrire un nouveau livre en prison et qu'il sorte avant la Noël.
Ah oui?
Ben oui, mon top 2 du journal de prisonnier, il va falloir que je l'écrive avant. Il n'y a pas le choix. Du coup, il faut que je trouve une prison pour juillet et août.
Ah ouais.
Pour que ça fasse un peu crédible.
Un petit mot peut-être sur votre fils, Louis, qui est arrivé 3e au premier tour des municipales à Menton.
Je suis tellement fier de mon petit Louis.
Ah. Mm.
Parce que c'est courageux. Vous rendez compte, Monsieur Marshall, Louis, il s'est lancé à la conquête d'une ville de gauche.
Non, enfin, Menton, ça n'a jamais été une ville de gauche, Monsieur Sarkozy.
Ah ben, la preuve que non, puisqu'ils n'ont pas voté pour mon Louis. Pourtant, quand j'étais venu le soutenir, les électeurs de Menton, ils m'avaient promis de le faire, de soutenir mon Louis. J'aurais dû me douter à leur nom qu'ils n'étaient pas sincères, les habitants de Menton. Hein. Les menteurs et les menteuses, pardon. Hein. Mais je sais que vous êtes ravis de pouvoir reprendre mon Louis comme chroniqueur sur RMC. Hein, BFM. Ça vous avait manqué, c'est ces chroniques où qui dit qu'il faut supprimer le code de la route et les lois sur la drogue. Hein. Ah ben, il va y avoir moins de nuages de cannabis, ça c'est sûr, à Paris, M. Tanguy.
L'Europe a signé un accord commercial avec l'Australie, ce qui suscite la colère chez les agriculteurs qui voient dans ce traité une nouvelle menace pour leur activité. Arnaud Montebourg est avec nous, bonjour.
Salut mon Apolline.
Oh, salut.
Salut mon David. Évidemment qu'on s'inquiète. Moi qui suis dans le miel, je peux pas rivaliser, je te le dis tout de suite, avec l'Australie. T'as déjà vu des reportages sur RMC Découvert sur les animaux d'Australie?
Oui.
Mais c'est des monstres.
Vraiment?
Ben, les abeilles australiennes, elles font 1 mètre de long. Elles sont vicieuses quand elles te piquent. Elles visent directement la jugulaire et elles t'empalent. Elles sont très redoutées. C'est des ouvrières, mais t'en fais pas ce que tu veux, tu vois. Elles ont carrément monté un syndicat et elles sont 35 heures, les abeilles australiennes.
C'est vrai que c'est impressionnant quand même. Hein.
Ah, mais les apiculteurs australiens, on passe mentir, ils vivent dans la peur, tu vois. Du coup, c'est eux qui bossent. Ils vivent dans les ruches, les apiculteurs. Ils butinent et c'est eux qui font le miel sous la surveillance des abeilles. Ah. Et là, je te parle juste des abeilles, parce qu'il y a aussi les escargots.
Non.
Ah, sache qu'un seul escargot australien, tu peux nourrir une famille pendant 2 semaines.
Non.
Et rien qu'avec la coquille, tu peux loger 12 personnes et 2 chiens. Et là, on résout le problème de logement de David Lisnard.
Ah, bah, c'est sûr. Hein,
on ne peut pas rivaliser notre Mercosur à côté de l'Australie, c'était que dalle.
Merci, monsieur Montebourg. Emmanuel Macron est aussi avec nous. Monsieur le Président, bonjour.
Oui, bah écoutez, bonne nouvelle, Apolline Malherbe. Ça y est, c'est ouvert.
C'est ouvert, c'est-à-dire vous avez réussi à négocier avec les Iraniens et ils rouvrent le détroit d'Ormuz?
Mais non, mais on s'en fout des détroits d'Ormuz. Non, mais je vous parle du village de la Reine des Neiges à Disneyland
Paris. Ah oui,
j'ai passé toute ma journée de... Voilà, ça y est.
Oui, enfin, c'est quand même pas le même impact sur l'économie française que le détroit d'Ormuz.
Ben si, ça a quand même un impact sur notre économie. Allons, Apolline Malherbe, grâce à Disney, plus besoin de verser d'allocations chômage pour les déçus des municipales. Je les ai recasés à Disneyland Paris. François Hollande en Dumbo, Anne Hidalgo en petit rat de Ratatouille et Rachida Dati en Cruella, voilà. Et on n'a même pas besoin de les déguiser, on reconnaît les personnages.
Au fait, vous avez vu pour Edouard Philippe?
Ah ben oui, alors lui, c'est direct chez les Salins d'Almatien.
Non, mais vous parlez du sondage.
Ah non, mais...
Pardon. Seul Edouard Philippe serait en mesure de battre le RN au second tour.
Ah mais c'est sûr qu'Edouard a pour lui un atout indéniable. Les Français veulent des nouvelles têtes. Et lui, il en change toutes les 3 semaines.
Le détenu qui s'est enfui lors d'une visite au Louvre la semaine dernière a été retrouvé 4 jours plus tard dans son pays d'origine, le Sénégal. Philippe Devilliers est avec nous, bonjour.
Attendez, vous êtes en train de me dire que le prisonnier a profité d'une visite au Louvre pour s'évader, rejoindre le Sénégal? Mais c'est parfait, ce malandrin volant s'est donc auto-expulsé. Une OQTF réalisée sans dépenser une goutte de kérosène. Mais je dis bravo, il faut faire la même chose avec les autres. Ouvrons les musées.
C'est-à-dire
Manifestement, c'est la solution. envoyant de toute urgence nos OQTF visiter tous les musées d'art moderne de notre pays. Hein, tous les vernissages où des créateurs torturés peignent des portraits d'Olympe de Gouges avec le sang de leur menstruation. Hein, allons-y, faisons visiter à ces prisonniers toutes les expos sur le féminin sacré, tous les concerts de Pierre Garnier à la Philharmonie de Paris. Mais oui, mais c'est si les obscénités artistiques des bobos wokistes dégénérés parviennent à faire fuir les criminels, moi je dis banco. Hein, les OQTF, on les met devant une exposition de clowns tristes de Bernard Buffet, et ils n'ont aucune envie, c'est de rejoindre leur pays à la nage. Donc je le dis, laissons la gestion des OQTF au ministère de la Culture.
Merci Nicolas. Nicolas Canteloup qu'on retrouve demain à 8h50 et à tout moment en podcast. Dans un instant, les GG avec Olivier Truchot. Bonjour Olivier, quel est le menu ?
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les grandes gueules se préparent. Charles Consigny, Laura Varton à Martinez, Joël Dagossiri. On va débattre de l'actualité. On va accueillir le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray. C'est sa première dans les grandes gueules. Il sera face au GG. On reviendra sur ces attaques au couteau dont sont victimes les profs. Il y a un procès en ce moment, le procès du meurtrier d'Agnès Lassalle. Un procès très suivi. Et puis on reviendra avec lui sur le niveau affligeant de nos enfants en orthographe et en grammaire. Il va être beaucoup plus exigeant, le ministre. En a-t-il véritablement les moyens ? Allez, à tout de suite.